Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast de la rédaction. Le numéro 520, oui je sais à chaque fois je dis numéro, mais comme ça au moins ça me permet de me repérer. Cette semaine, qui avons-nous ensemble avec nous? À part Thomas et Plume, on a Johnny One.
Bonjour.
Ça va?
Ça va, ouais, et vous?
T'es pas trop fatigué, non?
Non, ça va, tranquille. Ça va,
t'as réussi à te libérer pour venir dans ce podcast de l'angoisse. Merci Plume évidemment qui est là aussi qui fait.
Pourquoi tu me remercies si je veux dire bonjour
Non, je disais merci Johnny One.
Ah ok d'accord.
Pauvre bah de rien.
Ok d'accord. Quand bah mets dis... ta virgule alors à ce moment là.
Quand tu dis merci Plume tu veux dire merci Johnny One en fait.
Exactement.
Ok d'accord.
Et je vous emmerde aussi en même temps.
Très bien.
Voilà, vous avez entendu Thomas et Plume qui viennent me chercher la merde ici. Je sais pas pourquoi.
Elle est juste là, regarde.
C'est vrai. Et puis il y a le maillot là derrière de Kobe que t'as ramené Johnny One. Voilà, forcément
quelle
il fallait
tristesse.
Qu'on fasse un petit hommage à ce cher Kobe qui va nous accompagner du coup toute la session qui durera ce podcast, c'est-à-dire un quart d'heure. Non, c'est calme. Non, parce que mine de rien, même si c'est une petite semaine, en termes de jeux vidéo, il y a quand même des choses à dire sur des jeux que vous avez pu tester, jouer.
Des très bons jeux.
Et regarder, exactement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu es là, parce que tu vas nous parler de choses que tu as
vues. Exact.
Et que tu as joué, et que voilà, quoi. Et bien sûr, le Will the Fail, hein, il y a 10 ans sur Gameblog. J'allais dire le titre à la con là. Ils mettent toujours des titres de merde, donc du coup à la fin
c'est Thomas, ça à chaque fois c'est toujours pareil hein.
Il met toujours un truc est-ce qu'on voit la balle.
C'est pas moi là.
Bravo le courage les gars. Le thème numéro 1 de ce podcast, ça sera Captain Tsubasa, que Plume a retourné dans tous les sens.
Non, mais en tout cas j'y ai bien joué.
A retourné de voler.
Ah, quelle classe.
Bravo.
T'as vu ça. Et Journey of the Savage Planet.
Justement, tout Savage Planet.
Tout Savage Planet, pardon. Exactement, tu as raison.
Exact.
Parce que sinon, c'est la planète qui vit l'aventure.
Tout à fait. Mais encore une fois, je vous emmerde. Voilà. Je plaisantais, détendez-vous.
Et c'est le pas thème lui qui numéro 3. Tout le temps d'habitude.
Ouais.
Thème numéro 3, c'est. Là, tu vas dire le titre, Plume.
Il y aura deux jeux. Il y a le mien, c'est Through the Darkest of Times.
Tout à fait. Et c'est quoi l'autre jeu?
Et l'autre jeu, c'est Thomas qui va dire le titre.
C'est
parce que
des
là,
titres
c'est...
chelous.
Bah,
en fait.
C'est 1980X ou okay. J'imagine 1980X en français.
Pas du tout, tu mens.
Voilà.
C'est vrai, c'est ça. Ok, d'accord, bah, pas de soucis. Hein, écoutez, hein. Puis il y aura évidemment l'anniversaire. Tu nous en parleras.
Tout à fait.
On dira pas ce que c'est.
Exact.
Sinon, tout le monde
un indice sur votre écran.
Un indice chez vous.
Un indice chez vous, ouais, exactement.
Si vous avez la vidéo.
Et puis le hors-jeu qui sera un truc encore plus chelou par Plume, évidemment.
Rien de
que
chelou.
Personne n'a jamais vu, mais.
Bon, rien de chelou.
Ok.
C'est-à-dire le truc dont il nous parle tous les jours depuis
exactement.
Deux semaines, c'est ça?
C'est vrai.
Et bah, Poufy a regardé.
Truc, alors.
Et il a eu raison. N'est-ce pas, Poufy? Voilà.
Bah, moi, je vais découvrir, du coup.
Et il dit oui.
Vous allez découvrir aussi ce hors-jeu qui s'annonce palpitant.
Absolument.
On commence tout de suite avec le win de la semaine. C'est Plume qui va nous raconter des choses bizarres.
Non, c'est pas bizarre, c'est
chelou,
une super
alors.
Nouvelle pour le jeu vidéo indépendant et pour les gens qui se disent un jour tiens, je vais faire un jeu vidéo tout seul et ça va marcher. C'est Stardew Valley pour lequel on a appris que il avait dépassé les 10 millions d'exemplaires vendus en tout dans le monde. C'est un truc quand même qui est assez phénoménal pour un jeu qui a été fait par un monsieur absolument tout seul. Alors sous le nom de studio Concerned Ape, on trouve Eric Baron tout seul qui un jour s'est dit tiens, je vais faire une espèce de simulation bac à sable
de
fermier
de,
de fermier, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des relations sociales et un petit peu d'action si on en a envie, et c'est un super jeu. Vraiment, je crois que toutes les personnes qui l'ont essayé.
Bah, j'ai jamais fait, mais ça a l'air super mignon en fait.
C'est assez prenant, super bien foutu.
Ça et fait plus penser à Animal Crossing un peu.
Et plus éloigné d'Harvest Moon que ce qu'on pourrait croire.
Ah, ouais,
et c'est vraiment un très très bon jeu et qui a été édité par Chucklefish, qui est sorti sur bon nombre de plateformes depuis, dont la Switch, et qui a eu son mode multijoueur il n'y a pas si longtemps que ça, plus pas mal de mises à jour pour essayer de rectifier des trucs qui n'étaient pas forcément bien équilibrés. Et bah 10 millions, je crois qu'il y a beaucoup de jeux qui rêveraient d'atteindre ce score, ou qui le mériteraient.
Attends, 10 millions, combien de temps aussi
il est sorti en 2016.
Ah oui, ça fait pas si longtemps que ça en fait.
Non, d'accord. Ça fait 4 ans et vraiment,
effectivement.
Beaucoup de chapeau pour le développeur Eric Baron, qui a assuré.
Et il est sorti sur quoi? Que sur PC?
Non, il est sur PC, PS4,
d'accord.
PS Vita, Switch, à peu près tout.
Sur ça fait partie de ces jeux qui sont sortis un peu partout au bout d'un moment en fait.
Ça. Un peu comme Minecraft et compagnie, Tetris et tout ça. Bah écoute, ça
voilà, n'hésitez pas à y jouer.
Ouais, exactement.
Pour le rendre un peu plus riche, c'est ça?
Franchement, il mérite sa thune.
Pour qu'il fasse le 2. Bah bravo à Stardew Valley, alors 10 millions d'exemplaires vendus. Chapeau.
Félicitations.
Et si on parlait du fail maintenant, Johnny?
Oui, tout à fait, le
c'est
fail.
C'est plus relou déjà.
Ah ouais. Alors vous savez qu'il y a un film Uncharted qui devrait sortir bientôt, ouais. Peut-être,
ah oui,
on ne sait pas.
Depuis 2010,
voilà, ça fait 5 ans, 6 ans.
Donc bon, on a eu fin 2019 là, des petites news où on perdait le 6e réalisateur,
ça, c'est fou,
qui était sur le film. Donc il va y en avoir un 7e qui va débarquer. Donc déjà 7e.
Alors soit le scénario est pourri et les réalisateurs s'en vont parce que c'est de la merde. Soit je sais pas.
Soit les producteurs sont tyranniques, je ne sais pas. Mais bon, bref, en tout cas, du coup, le fail, bah, c'est que du coup, ce réalisateur qui part fin 2019, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, du coup, hein, à votre avis?
Bah, le film se fait tout seul, non?
Non.
Chez un truc comme ça.
Non, le
ça
film
va
finir
chez Naughty Dog,
le film est retardé, du coup. Voilà, forcément, bah oui, on perd un réal et bah ça repousse encore. Donc le film devait arriver en 2020, à fin d'année, pour Noël, décembre, bah non, finalement, il sortira mi-2021. Voilà, donc il est repoussé de 6 mois, 5 mars 2021, pas tout à fait 6 mois, 4 mois, voilà.
Oui, 5
mars 2021,
report,
ouais, en attendant le prochain report, voilà, pour un nouveau changement de réal.
Ah bah là, s'il y a un autre report, ça va être beaucoup plus loin, parce que le gros nœud du problème, c'est Tom Holland, qui doit tourner Spider-Man, un nouveau Spider-Man cet été.
Ah oui.
Et c'est à cause de ça que la production doit forcément accélérer. Pour que tout soit calé en termes d'agenda.
Bon, c'est vite fait.
Et
non,
c'est pour ça que le dernier réalisateur est parti, parce qu'il estimait qu'il avait pas le temps et qu'il pouvait pas. Et que bah, là, s'il reporte à nouveau, c'est foutu. Ils arriveront jamais à le sortir pour 2021.
Vous avez pas l'impression que c'est le PR de Flamanville, mais en version film, ce truc?
De quoi?
Ça coûte du fric, c'est reporté en permanence, les gens se barrent.
Ah ouais.
Il y a un joli parallèle, je trouve.
Mm-hmm. Ouais. Bon, en tout cas, moi, je pense qu'il faut qu'ils abandonnent Tom Holland et qu'ils aient cherché mon pote Nathan Fillion juste ici là.
Peut-être il pourrait faire autre chose. Savez-vous que Mark Wahlberg devrait jouer dans le film? Mark Wahlberg, moi je trouve personnellement qu'il a une petite ressemblance avec Nathan Drake. Bah, il joue pas Nathan Drake, il joue Sully en plus.
N'importe quoi, il a aucune ressemblance.
Moi je trouve qu'il se ressemble. Et en plus, ça c'est une petite particularité française. Quand nous, très chers français, on voit le film au cinéma, on entendra la voix de Nathan Drake dans le jeu vidéo, mais on va l'entendre sur le personnage de Sully, parce que alors je sais pas comment on se démerder, mais en tout cas le doubleur français de Mark Wahlberg, c'est le doubleur français de Nathan Drake. Donc que se passera-t-il? Qu'adviendra-t-il de toutes ces voix françaises, de cette version française, au-delà de tout le shitstorm qui pourrait y avoir avec le film?
Si ça se trouve, il est bien dans le film, hein, on sait pas.
Ouais, mm-hmm. Peut-être.
Bah écoutez, on
seul l'avenir le dira.
En tout cas,
mais bon,
en tout cas,
ça sent pas très très bon. Hein.
Encore
déjà, ça sentait pas
oui,
très bon.
Oui, mais il est pas annulé. Moi, je dis
ouais,
que
il y a des gens qui l'attendent vraiment encore, ce truc, malgré les 6 réals.
Moi, je suis complètement fan de la série, mais alors du film, j'en entends absolument rien du tout.
Alors, donc, quand je te dis que c'est pas très bon, je dis pas que ça va pas sortir. Je doute de la qualité future du film. Voilà.
Moi, j'ai rarement regardé des films issus de jeux vidéo, pour être honnête. Donc,
je crois que t'as bien fait.
Je suis pas.
Il y en a quelques-uns qui sont pas mal.
Oui, sûrement.
Un dont on reparlera tout à l'heure. En fin d'émission,
il est un peu moins chiant dans celui dont on parlera tout à l'heure.
On en reparlera.
C'est une super adaptation, mais c'est un peu moins chiant.
Tu trouves?
Oui.
Moi, j'ai trouvé exceptionnel. Bref.
Ok, bah pour ce fail, encore une fois, Uncharted repoussé.
Ouais.
Mais pas annulé. Voilà. Donc, il est toujours vivant. Nous verrons par la suite ce qu'il en est. Mais... De quoi?
Je dis toujours debout, c'est tout.
Exactement. Et si tout de suite on disait la rubrique il y a 10 ans sur Gameblog? Mon cher Thomas,
et
une
oui.
fois de plus, c'est toi qui t'y colle.
Tout à fait.
Alors, il y a 10 ans sur Gameblog, que s'est-il passé?
Eh ben, plein de déclarations plus ou moins véridiques.
Tamur.
Qui se vérifient avec le temps. Pour le coup, on va faire un petit coucou à ce cher Nicolas Doucet, dont
c'est
on parlait. Ouais, il y a 10 ans, c'était Rahan qui rapportait ses propos.
Notre maître à tous.
Et qui prenait un espèce de pari sur l'avenir. C'est toujours un peu compliqué de se dire qu'est-ce qui va cartonner dans les 10 prochaines années.
Je ne sais guère.
Eh bien, accrochez-vous à votre siège, puisque en janvier 2010, le futur, selon Nicolas Doucet, qu'on embrasse évidemment, c'était la télé 3D. C'était le futur. Gros truc avec les guillemets qui s'imposent.
Guillemets.
Voilà, Nicolas nous disait les TV 3D sont assurément une des grosses innovations à venir et elles nous feront faire un pas supplémentaire vers l'immersion totale. Voilà. Bon, 10 ans plus tard, on sait effectivement que ça n'est pas forcément le cas.
Ah bah, ça a été le cas, mais ça est vite mort. En fait.
C'est-à-dire que moi j'ai regardé, je te donne la parole juste après Johnny, la plupart des fabricants ont arrêté complètement de la produire en 2016. Donc voilà, ça fait un bail que les télé 3D ne sortent plus des chaînes de production. Problème, hein, c'est que la techno arrive alors que tout le monde vient de passer à la norme HD. Du coup, il faut quand même avoir la foi pour racheter un écran avec une techno un peu hasardeuse.
Mais même au cinéma, hein, la 3D ça fait pas tant la recette, hein, mine de rien.
Oh, ouais. Ça existe toujours quand même.
Ouais, ça existe toujours, mais c'est pas devenu la norme, quoi.
Non,
mais
que moi, le meilleur truc 3D que j'ai vu au cinéma, c'était une pub Haribo. Donc,
c'est vrai.
Ouais.
Non, moi, c'était le long métrage avec la petite tortue là.
Franklin, le
non,
film.
Non. La petite tortille qui était vachement bien faite. C'est la meilleure truc 3D que j'ai vu.
On est en train de le perdre ou
ouais, non, je sûr que si.
Les tortues ninja.
Non, non, rien à voir.
Avec la petite.
C'était un dessin animé, mais un long métrage dessin animé.
Ok.
Bon, bref. Et c'était vachement bien fait.
Ouais, Johnny, tu as une télé 3D, c'est
peux,
ça.
Oui, je peux faire un petit retour d'expérience.
Moi aussi, j'ai une télé 3D, j'en sers jamais.
Consommateur sur la télé 3D. Donc, moi, au début, j'ai acheté ça. J'étais saucé, hein, franchement.
Ah, mais on n'en doute pas. Hein.
J'ai acheté des Blu-ray 3D, machin. Bon, j'en ai acheté deux. Après, bon, bref, on les prenait sur internet. Donc, le Blu-ray 3D. Mais non, là où c'était cool, c'était sur la. Oui, sur Amazon, voilà, exactement. Là où c'était cool, c'était sur le jeu vidéo, en fait. Parce qu'on a eu quelques petits jeux 3D, quand même. Et là, je l'ai un peu exploité. Notamment sur...
Mais t'avais une télé 3D passive ou active ?
Active.
Alors, ah ouais, donc il fallait des lunettes actives.
Ouais, il fallait des lunettes actives. Alors, aujourd'hui, les lunettes, je les ai revues il y a 15 jours, là. Elles étaient dans un tiroir à la maison. Alors, malheureusement, elles se sont pris un pet. Bref, c'est foutu, je pourrais plus jamais m'en servir. Faudrait que je rachète des lunettes si jamais un jour je veux le faire. Mais sur Play 3, donc, on avait quand même quelques petits jeux. Moi, j'en ai fait quelques-uns. C'était assez sympa. Il y avait du Uncharted, je crois, notamment. Même si celui-là, je l'ai pas fait en 3D.
MotorStorm aussi, je crois.
Ouais.
Ah oui,
moi,
ça, c'était pas mal, je crois.
Les jeux que j'ai fait en 3D, que j'ai bien exploité avec la.
Rocksteady aussi, je crois.
Rocksteady.
Il y avait un des Batman,
ouais, Batman justement.
Pensé...
Donc les jeux que j'ai pas mal dosé en 3D, j'ai fait notamment le Arkham City, que j'ai fait quasiment tout en 3D. Hatsune Miku, qui était en 3D, voilà, j'ai pas mal joué. Et le dernier, celui-là, je l'ai pas fini, faudra que je le refasse un jour, mais bon, mes lunettes sont pétées, du coup, je sais pas comment je vais faire.
Il y a un lecteur qui va te les envoyer, t'inquiète
pas. Tu pourras pas.
C'était Silent Hill Downpour, voilà. Et qui pour le coup lui proposait une 3D assez intéressante, assez avec pas mal de profondeur. Voilà.
Ouais, mais ça c'est la 3D active, c'est plus contraignant. Parce que j'avais une télé 3D aussi, mais
passive évidemment. Bah ouais.
Et ça c'était vraiment très simple. C'était très simple à mettre en marche,
en moitié route.
Et puis tu pouvais mettre n'importe quel film en fait. Tu mets un truc qui est pas un contenu 3D, oui. Et puis il te crée en doublant l'image, il te crée une sensation
mais
de 3D.
T'avais des lunettes pourries achetées avec la télé. Quoi.
Ouais, bah c'est des lunettes toutes bêtes polarisées là, ciné, qui permettent.
C'est ce que j'ai jamais utilisé.
Enfin bon, bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je m'en sers plus.
Tout ça pour
tout.
Dire que n'est pas prophète qui veut. Non, ouais. Malheureusement, pour ce cher Nicolas Doucet, pour le coup.
Ouais, j'espère qu'il nous. Enfin, de toute façon, il nous écoute plus. Maintenant, il pèse un peu plus dans le game.
Il pèse tellement dans le game.
Voilà, il paraît qu'il viendra même plus bouffer avec nous. Enfin bon, bref.
On disait qu'à l'époque, il représentait fièrement le Gers. En tout cas, c'était ce que Raon nous rappelait. Et pour le coup, une autre innovation qui n'a pas duré très longtemps, il y a 10 ans, Ubisoft décidait de mettre en place une nouvelle politique anti-piratage, justement pour lutter contre les vilains pirates des versions PC de ces jeux. Et en l'occurrence, la petite trouvaille d'Ubisoft, c'était que vos sauvegardes allaient désormais être stockées en ligne. Donc si vous vouliez pouvoir récupérer les saves de vos jeux, il fallait se connecter sur les serveurs d'Ubisoft avec évidemment une version non craquée pour pouvoir jouer comme on veut. Alors en soi, on peut se dire qu'effectivement... Ouais, pourquoi pas, faisons le test. Bon, le test n'a pas forcément marché, hein, puisque là on est en janvier 2010. Et en septembre 2012, rétro-prédalage complet d'Ubisoft, on vous en avait d'ailleurs parlé sur Gameblog. Voilà, c'était Ash qui revenait là-dessus.
Jérémy Pacro.
Ça aura duré donc à peu près 2 ans et demi, le temps que Ubisoft comprenne que les joueurs n'avaient vraiment, mais alors vraiment pas envie de se connecter à chaque fois pour récupérer leur sauvegarde. Et du coup, ça a été un petit peu annulé, c'est tombé dans l'oubli. Mais l'éditeur français essayait quand même de se justifier en précisant que 93 à 95% de ces jeux sur PC étaient piratés, donc il fallait vraisemblablement faire quelque chose. En tout cas voilà, on aura essayé pendant 2 ans et demi de lutter contre ce phénomène et finalement ça n'aura pas pris. Et dernier petit coup de rétro il y a 10 ans sur Gameblog, c'était Microsoft qui se retrouvait accusé de tous les maux, mais surtout accusé de ne pas jouer franc jeu avec son système de points. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a une dizaine d'années, le Xbox Live fonctionnait en points et pas en euros, en dollars ou en ce que vous voulez.
Et tout à fait.
Et c'était pas net encore. Parfois
si, j'ai découvert ça.
Un peu bizarre.
Oui,
parce que
moi au début j'ai confondu les points avec les succès. Je croyais je gagnais des.
Il y a qu'à toi que ça peut arriver, je te rassure.
Je croyais qu'en jouant au jeu, je gagnais des points et que je pouvais dépenser la boutique. Après, j'ai vu. Ah, mais non, c'est des G et l'autre, c'est. C'était plus des G, c'était. Je sais plus comment ils s'appelaient les points. Ils avaient un petit symbole aussi.
Ils avaient une icône, ouais.
Les S-Points ?
Non, c'était une boule avec un trait dedans.
Avec un trait d'union, ouais.
En tout cas, entre le taux de conversion, le résidu de points qui pouvait exister, ça n'a pas beaucoup, beaucoup plu aux joueurs. Et effectivement,
c'était un peu de la carotte.
Je faisais partie de ces joueurs qui étaient demandeurs quand même de passer un système de devises assez simple. Et pour le coup, là, Microsoft était un peu contraint et forcé justement de revenir sur ce système. Alors, Aaron Greenberg essayait de le défendre un petit peu en expliquant que, bon, il pensait pas forcément à mal à l'époque et qu'en plus, ça donnait une espèce de conversion qui marchait partout sur la planète. Sauf que, bon, il y a eu une class action qui a été lancé aux États-Unis. Et puis finalement, trois ans et demi plus tard, pardon, en août 2013, Microsoft a bien été obligé de complètement abandonner son système de points et de rebasculer vers ce qu'on connaît, à savoir des euros, des dollars. On vous en avait également parlé, puisqu'il y avait carrément eu une bêta qui avait été mise en place pour préparer justement le changement de devise sur le Xbox Live.
Et d'ailleurs, c'est là que ça a valu le coup à un moment, c'est-à-dire que quand il te restait des cartes à gratter avec des points, quand tu les rentrais alors que le système était passé en euros, je crois que t'étais un tout petit peu gagnant.
Tu gagnais 3 centimes, ouais, un truc comme ça.
Ouais, c'est ça. Et Genuine, bien sûr, il voulait tout gratter, donc il s'en souvient bien.
Et donc voilà, comme Poufy vous l'illustre justement, il y avait le communiqué officiel de Microsoft qui tombait en août 2013 pour expliquer que bah voilà, tout allait changer, que dorénavant, on allait payer dans la devise de son pays. Voilà.
C'était le bon temps.
Pas du tout.
Ah.
Non, c'était un
pourri. C'était
tout pourri comme système.
Ok, c'est vrai.
C'était un peu bancal, oui, c'est sûr. Eh bien, écoute, merci Thomas.
Hein, voilà, il te restait toujours des points, genre il te restait genre 3 points sur ton compte que tu pouvais jamais les dépenser.
Enfin, on en perd toujours de toute façon des points dans toutes ces histoires.
Mmh. Des fois, ils sont dans les poches, faut regarder. Il y en a un ou deux qui traînent.
Non, je suis pas sûr. Je ne suis pas sûr du tout. Et je crois, chers messieurs, qu'il est l'heure de passer au thème number one. Et là, évidemment, que va-t-il se passer tout de suite?
Et bon, on va faire une catépulte infernale avec Thomas, évidemment.
Non, encore, merde.
Ouais,
encore
dans la gueule, il le sent qui gicle dans tous les sens. Et ben, on va parler de Captain Tsubasa.
Ouais.
N'est-ce pas, Plume, que tu as pu retourner dans tous les sens?
Bah ouais, surtout que je crois qu'on a tous été, en tout cas pour les gens qui
et bluffé.
Qui ont un peu plus de la trentaine et qui ont regardé Olivier Tom sur leur téléviseur quand ils étaient enfants et même un peu après.
En sortant télé cathodique, tu veux dire.
Absolument, ça a été une petite révélation mardi dernier quand Bandai Namco a fait cette annonce d'un nouveau jeu Captain Tsubasa qui n'est pas un jeu mobile. Voilà, ça c'est le premier truc déjà qui est très important.
C'est déjà une bonne chose.
C'est que ce n'est pas un jeu mobile. Et quand ils font cette annonce et qu'on commence à voir le trailer pour la première fois, on se dit il y a peut-être quelque chose là. Il y a peut-être un vrai bon jeu. Peut-être si ce n'est un bon jeu de foot, au moins un bon jeu Captain Tsubasa qui est en train de se préparer. Alors après, il y a les gens comme moi qui sont très nostalgiques des RPG des années 90 sur Super Famicom qui sont jamais sortis en Europe, mais auxquels on pouvait quand même avoir accès grâce à la magie de l'import et même jouable, tout à fait jouable en japonais, très compréhensible une fois qu'on arrivait à traduire deux trois trucs. Bon, moi j'étais très nostalgique de ces jeux-là, mais là c'est un jeu d'arcade. Je vais dire malheureusement pour moi parce que je suis pas spécialement un grand client de ce style de football là. Je pense que voilà, je préfère la simulation, je le dis tout de suite. Hein. Les jeux de ce style ne m'en rebutent pas, mais m'enchantent pas plus que ça. Et ces dernières années, on en a eu quelques-uns, notamment les Mario Strikers ou autres, qui m'ont laissé complètement de marbre. Et bah,
moi aussi, hein, je te rassure.
Et bah, en prenant la manette pour la première fois de Captain Tsubasa Rise of New Champions, puisque c'est son nom, et bah, je dois t'avouer que j'étais pas du tout rassuré. Parce que comme on peut le voir à l'écran,
oui, on sent que c'est pas du PES ou du FIFA.
On reconnaît bien la plupart des joueurs de la série, de Yoichi Takahashi, mais c'est quand même assez mal animé, c'est assez lourdeau.
TPQ Segui.
Alors oui, ça fait jeu de foot des années 90, mais je sais pas si c'est la bonne chose à faire forcément.
Oui, je trouve que le rendu est quand même pas mal.
C'est propre.
Ouais.
Mais voilà, enfin, il y a pas la pêche.
C'est ton gameplay là, Plume.
Ouais.
Oui, c'est.
Il y a pas la pêche qu'on pourrait se dire qu'un jeu de ce style doit avoir. Bon, je joue quelques minutes.
Il soulève la poussière quand il marche, les mecs. C'est hyper dynamique quand même.
T'as eu la vitesse.
Je trouve pas ça très très fluide.
Bah, c'est le début. Hein, c'était une alpha à laquelle on a joué avec seulement deux équipes, la Nankatsu et la Toho. Donc la New Team et la Toho, si vous préférez, si vous êtes de la même génération que moi. Et donc,
la faute.
Et donc, je me dis, oui, bon, finalement, ils ont peut-être dû faire un jeu mobile avec. Et puis, on commence à comprendre 2-3 trucs. Alors c'est un jeu qui est très simple, hein, et j'ai presque envie de dire qu'il est limite vraiment dirigé pour les enfants, pour sa simplicité, et pour les novices du jeu vidéo, évidemment, ceux qui seront plus attirés par l'univers du jeu. Et tu commences à comprendre 2-3 trucs, leur système de dash, notamment, et surtout le système de tacle. Quoi. Et d'esquive qui est placé sur le même bouton qui est le bouton R2 qui va te bouffer un petit peu d'endurance, et c'est grâce à ça qu'il va commencer à y avoir les choses les plus intéressantes, ce qui fait en fait Olivier Tom tout simplement, et ce qui fait que tu vas te dire c'est peut-être pas un jeu de foot, c'est peut-être plutôt un jeu d'action avec un fond de foot pour faire style. Et donc tu te retrouves à faire tes premiers tacles qui vont marcher, et avec une super animation de toi en train de, enfin de ton joueur en train de soulever l'autre en lui piquant la balle, ou au contraire quand toi tu attaques, tu es ce joueur qui passe fièrement avec un gros plan sur toi au moment où tu esquives l'adversaire qui essayait de te tacler. Bref, t'as ces plans qui font très Olivier Tom et qui montrent un petit aspect héroïque en fait de ces instants précis dans ce que peut être un match de foot version Olivier Tom. Et c'est là que tu commences à te dire ah, y a quelque chose, parce qu'en plus c'est extrêmement fluide, il y a absolument aucune coupure, aucun chargement, rien. C'est le moment où cette cutscene apparaît, le moment où tu reviens en jeu, il s'est passé une demi seconde, mais c'est la demi seconde où tu vas te dire ah c'est bien, il y a l'ambiance, parce qu'en plus bonne nouvelle, il y a le commentateur japonais qui s'occupe de commenter justement le match en direct pour ajouter un peu d'ambiance à l'histoire.
Il est à fond, j'imagine.
Il est toujours à fond. Et une fois que t'as commencé avec les tacles, les esquives, après tu vas t'essayer au shoot, et t'essayes les shoots avec des joueurs normaux, bah ils font des tirs pourris sans rien, et là tu dis bon, il y a peut-être des joueurs qui ont plus de chance. Donc là c'est le moment où tu commences à t'intéresser un petit peu aux différents membres de ton effectif, parce que tout le monde a des caractéristiques spéciales. Certains sont plus doués pour d'autres trucs et d'autres sont plus ont des caractéristiques qui sont vraiment très très spéciales. Et là, tu commences à tirer avec les bourrins, quoi, avec ceux qui ont des vrais gros tirs. Le seul truc, c'est que là, pour l'instant, en l'état, il faut charger un peu trop longtemps, je trouve, pour avoir droit justement à cette animation qui va faire qu'on va lancer un tir du tigre ou un tir de l'aigle. Mais une fois que tu le fais, bah c'est un peu génial en fait. Là t'es dans le dessin animé à ce moment là où tu as ton tir, on va prendre du tigre pour faire style, qui se déclenche. Donc t'as l'animation complète avec le gros plan sur Yuga qui a l'air super enragé, le tigre qui se matérialise derrière lui, la balle qui commence à fuser. Là t'as un retour sur la vue terrain à ce moment là avec la balle qui traverse le terrain, et là le moment où le gardien est en face du ballon et commence à le capter, et comme tu connais pas en fait les débouchés par avance, c'est un petit peu un jet de dé à chaque fois qu'il va se passer une action. Bah tu te dis qu'est-ce qui va se passer au moment où le gardien attrape le ballon et que la balle pivote dans ses bras. Tu te dis oh là là, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il va l'arrêter, et tu sais pas si tu vas te prendre le pion ou pas. Et ça fait un petit peu le sel du jeu, parce que c'est
comme dans l'animé, quoi.
C'est exactement comme dans l'animé.
Tu retiens ton souffle et t'attends de voir ce que ça va donner.
Exactement. Là, par exemple, on peut voir Morisaki, qui est le gardien victime de la série, qui moi m'a fait des arrêts de ouf, parce qu'il a une caractéristique en fait. C'est une fois que son endurance est en dessous de 20%, eh bien, il a la capacité arrêt miraculeux. Et donc, du coup, il se défonce pour arrêter des trucs qui sont impossibles à arrêter normalement pour lui.
Il fait des coups critiques quand il est low.
Exactement.
Low health.
Et j'ai eu un match. On a essayé d'organiser un petit tournoi sur place avec les journalistes présents. J'ai perdu mon premier match malheureusement contre un garçon brillant et sympa. Mais c'est Morisaki qui m'a sauvé quand même une bonne paire de fois, parce que justement, il avait plus de stamina. Lui, il était là, mais putain, je comprends pas. Je suis en train de t'arroser et tout. C'était fort à la mot dans ma défense, vraiment. Et Morisaki m'a tout arrêté. Alan Crocker pour les francisants,
c'est un peu déstabilisant là, non.
Et c'est un peu ça pendant tout le match en fait. À partir du moment où tu commences à dire que c'est plus un jeu à, on va dire, une espèce de pendant de Naruto Ultimate Ninja Storm dans un jeu de foot plutôt moyen, c'est vrai, en fait t'as ce que tu veux. Et comme on a vu que deux équipes avec pour l'instant pas pas beaucoup de joueurs qui ont des caractéristiques spéciales à montrer, bah du coup ça laisse présager de choses vraiment très intéressantes, des trucs aussi au niveau des timings ou au niveau de la précision des tacles qui sont à revoir. Il y a beaucoup de boulot encore pour le rendre
au niveau des feintes.
L'IA, hein. J'ai vu 2-3 petites actions, ouais, oui, ça oui, fait flipper, hein.
Ah mais l'IA elle est pas au point du tout pour l'instant. Après il y a les tactiques qui sont mises en place sur la croix directionnelle qui moi m'ont semblé pertinentes. C'est-à-dire que le placement, je sentais vraiment qu'il donnait tout en attaque quand je le voulais, ou il se mettait vraiment tous en défense quand j'en avais envie aussi. Donc voilà, pour l'instant, pour moi, il y a un vrai potentiel. Peut-être pas en tant que jeu de foot, mais
en tant que RPG footballistique.
Que Olivier Tom, tout simplement. C'est
si un, j'avais genre, eu, un genre à part entière.
Si j'avais eu ça, ne serait-ce que ça, hein, cette version alpha, quand j'avais 10 ans,
oui,
mais laisse tomber, j'y passais mes journées. Mais genre vraiment mes journées. Et là par exemple on peut voir aussi dans les trucs qu'on a pu voir, là je tente un centre, je me dis je vais faire un retourné en l'air, il m'a contré. D'accord. Et donc après on se retrouve avec une action contextuelle où il faut marteler comme un malade. Bah ça c'est des trucs, c'est tout bête, hein. C'est peut-être pas du grand jeu vidéo, mais c'est suffisant pour te donner un certain enthousiasme par rapport à la proposition.
Bah, c'est ça dans aucun autre jeu de foot en fait. Donc,
exactement.
Non, mais c'est cohérent avec la série.
Ouais, et c'est ça qu'en fait.
Qui est totalement folle quoi.
C'est ça qui en fait fait que pour ma part je l'attends énormément. C'est que je pense que je vais avoir droit enfin à un jeu de foot, on va dire. Réel,
complètement déjanté,
en temps réel, pardon, qui va me plaire parce qu'il ressemble à du Olivier Tom. Il y en avait eu un sur PS1 début des années 2000,
c'est pas mal,
mais
ça.
Qui était pourri, mais alors vraiment pourri. Et là, je pense que Bandai Namco avec Tamsoft, ils ont peut-être trouvé la bonne solution. En tout cas, quand vous verrez Ed Warner faire son fameux rebond sur les poteaux avant d'aller chercher le ballon à une main, où vous verrez un défenseur se sacrifier au moment où une frappe a été enclenchée. À mon avis, si vous connaissez un peu le dessin animé et le manga, vous allez mais surkiffer.
J'ai deux petites questions.
Vas-y.
Moi.
C'est vrai.
Justement, par rapport au tir,
non.
En fait, si
non,
tu
non, mais tais-toi, c'est bon.
Si
hein.
tu tires avec un joueur random qui est pas une star de l'équipe, tu vois vraiment la trajectoire et tu vois si le gardien va la choper.
Bah, si tu tires avec un joueur random, il a pas la patate pour faire autre chose qu'un tir normal qui reste en vue terrain.
C'est ça.
Et là, ça, les gardiens, ils les captent à chaque fois.
Okay.
Sauf quand tu les fais sortir à la FIFA ou à la PES en restant à plusieurs triangles. Là, eux, ils sont aux fraises et tu peux faire ce que tu veux.
Du coup, il faut vraiment que tu te mettes à découvert pour préparer ton tir. Mais là, tu sais pas ce qui va se passer parce que c'est l'animation qui prend le relais et
exactement.
T'as le système de jet de dés derrière. D'accord.
Exactement.
Et la deuxième question que j'avais, qui est pour moi très importante sur Captain Tsubasa, est-ce qu'il y a les thèmes de l'animé? Ne serait-ce que l'opening de l'époque.
Alors l'opening, je l'ai pas entendu. Mais là, okay. Pour l'un des démos, on n'a pas entendu grand-chose. Et je dois t'avouer qu'au niveau des musiques, je suis pas un gros connaisseur pour Olivier Tom, surtout que je connais vraiment que le générique
mais
français.
Si, avec la guitare électrique et tout.
Mais donc,
la guitare électrique, les
vrais sages.
Ouais, franchement, je me souviens pas du tout. Je suis désolé.
C'est toi qui aurais dû aller voir le jeu.
Oui, c'est ça en fait.
Bah voilà, tu feras le test. Voilà, t'as gagné. Donc je peux pas te dire pour les.
Tiens, Nagano.
Je peux pas te dire pour le son. Je peux te dire juste que. On pourra jouer à cours, deux
plume,
en solo, en local, à quatre.
Ah, ce lob.
Non, à quatre en local et à deux en ligne. Ouais. Et qu'il y a.
Ah, que à deux en ligne seulement.
Ouais. Et qu'il y a. Il y aura
logique,
plusieurs modes online sur lesquels ils n'ont pas communiqué, mais surtout plusieurs modes histoire. Et là, sur lesquels ils n'ont absolument pas communiqué non plus, et qui peut laisser présager qu'on n'aura pas que Tsubasa et les autres en mode adolescent, comme on a pu l'avoir nous là sur notre démo.
Ouais, ils vont jouer la Coupe du Monde.
Mais peut-être qu'on
ils vont suivre la série en fait.
Peut-être qu'on les aura aussi gamins, peut-être qu'on les aura aussi. Ouais, alors,
peut-être que
adultes.
Tu n'auras qu'une période avec plusieurs modes histoire, un par équipe, avec 5 matchs par équipe qui vont se boucler
peut-être.
En 20 minutes.
Peut-être,
même
qu'il y aura.
Match, tu veux dire.
Non,
peut-être qu'il y aura des scénarios précis à partir de telles minutes, comme on pouvait les voir sur les 64 ou autres. Bref, voilà. Moi, pour moi, il y a un potentiel. Ça peut être un jeu qu'on peut trouver mauvais, mais un super Olivier Tom, tout simplement.
Et ça va rester en japonais, les noms ou ils vont les.
Oui. Ah, parce que maintenant, en fait, pour nous, là, nous, on appartient au passé. On est des hommes du passé. Olivier Tom, c'est.
Je vous le dis tout le temps.
Ouais, moi, je me souviens que des noms en français.
Pareil. Et Olivier Tom, ça n'existe plus en France.
C'est Captain. Je me rappelle de Mark Landers, Olivier.
Bah voilà. Bah maintenant, c'est.
Moi,
c'est,
je vois les noms là. Je sais pas qui.
C'est Captain Tsubasa pour tout le monde.
Mais oui. Mais en même temps, je suis obligé de dire que c'est normal puisque le fameux Tom. Il est là dans les premiers volumes, mais en après il se barre. C'est-à-dire
mais
que...
tu sais que le gentil Sangohan combat tous les méchants alors que son père était un héros, alors que son père revient deux épisodes plus tard.
Oui, bon, il y a les fillers quand même, donc il revient un petit peu plus tard. Mais...
ce bazar, je vous
après qu'il ait passé le permis, oui.
Mais
oui.
Voilà, mais la série a été traduite en français, ils ont vu quelques épisodes, ils se sont dit ok, les deux là, ils vont faire toute la série ensemble. Allez hop, Olive et Tom, c'est vendu, c'est parti.
Ce bazar marketing, moi je
raté.
Te le dis.
Et mince.
Marc, ça aurait pu s'appeler Sangoku et Piccolo. Hein,
exactement.
Les aventures de Sangoku et Piccolo.
Et Son Gohan aussi.
Ok.
Ouais, qu'est-ce que tu voulais
dire? Ouais, j'ai oublié ma vanne. Alors attends, elle me reviendra.
Elle va repasser. Elle va repasser dans ma tête.
On a une date de sortie pour ce machin?
Pas de date de sortie.
Non, pas du tout, parce que le jeu n'est pas fini.
J'imagine qu'ils doivent songer à le sortir avant l'Euro 2020, parce qu'en plus l'équipe de France est partenaire.
La frappe du tigre.
De Captain Tsubasa.
Ah putain, c'est cet été.
Ouais, c'est cet été.
Tiens, il y avait un autre partenaire. Ça y est, je me suis rappelé de ma vanne, mais j'ai réoublié.
Oui.
Ah oui, non, c'était. C'était pourtant Nicky Larson, s'appelle toujours Nicky Larson, lui.
Ben oui, mais tu sais. C'est parce que ça passe bien.
Non, il s'appelle Ryo. C'est
bon, non, Ryo.
Bah,
quoi,
City Hunter,
le
aussi,
en fait. Ouais. Le manga s'appelle City Hunter, ouais.
Exactement.
Et du coup, l'autre connerie que je voulais dire, en fait, je sais plus ce que c'est, mince.
En tout cas, pas,
j'ai oublié. Les animations, en tout cas, sont super chouettes.
Ouais, c'est sympa.
Et même moi qui n'apprécie pas beaucoup le foot, je trouve qu'il y a un dynamisme qui donne quand même plutôt envie.
C'est pas du foot, c'est du Portnoy.
Bah c'est ça qu'on veut. Hein.
C'est de la science-fiction. Ah bah évidemment, oui, c'est pour ça qu'on
regarde. C'est exactement ça qu'on veut.
Je vais regarder un match en 22 épisodes, donc forcément, on était contents. Bah parfait, alors du coup, et donc pas de date de sortie. Et on
c'est 2020, PS4, PC et Switch.
Et Switch, oui. Mm. Pas de Xbox, curieusement.
Bah non. Bon. C'est triste.
Peut-être le marché japonais, ils ont pas trop envie de le vendre là, sur Xbox là-bas.
Et comme me l'a rappelé le compte d'ADN sur Twitter, Captain Tsubasa est disponible sur ADN, vous pouvez regarder l'intégrale.
Exactement. Bah, okay, pour ceux, il y a plein qui connaissent pas. Hein,
absolument, et donc c'est le moment, si vous voulez découvrir.
Non. Honnêtement, pour une série de ce genre.
Bah 40 ans quasiment.
Ouais.
Né en 81, sous le trait de Yoichi
Takahashi.
En 89. Est-ce qu'on a le droit de spoiler la fin?
Voilà, 89 sur la 5, dans l'émission Youpi, l'école est finie.
Il y a encore mieux. Lisez le manga.
Aussi.
El Mangato.
Tu voulais dire un truc sur.
Ouais,
non, il voulait spoiler la série.
Cocorico, quoi, la fin, quoi. Même si on
peut. Mais arrête de spoiler.
Bah ouais,
bon, allez, je crois que j'ai jamais vu les derniers épisodes en fait.
C'est vrai?
J'étais trop vieux.
Bref, personne ne voit jamais les derniers épisodes d'une série.
Le vrai ennemi
hein.
Et les plus forts, c'est l'équipe de France. Voilà.
D'accord.
Ah, okay.
Ah oui, ça faisait France, ouais, bah c'était France-Brésil à la fin, c'est ça?
Bah, France-Japon.
Oui, oui.
Comme avec Napoléon, c'est Japan.
Ouais, je sais plus comment il s'appelle.
C'est ça, c'est Napoléon, leur milieu star ou leur indépendant.
Parfait. Bah écoute, merci Plume pour cet avant-goût de Captain Tsubasa, n'est-ce pas, que tu as pu voir pendant quelques heures. Il y a encore plein de vidéos sur le site.
Ah oui, on vous a mis des vidéos de gameplay et tout. Parce
le
petit
reportage de Plume, etc.
Il paraît qu'il y a de la demande. Donc nous, on offre.
Exactement.
Mikasa et Tsubasa.
Tout à fait, servez-vous.
Tsubasa et Tsubasa.
Oh putain!
Putain, pas
vu.
Mal! Attends, tu t'aurais pu le mettre en intertitre.
Ah
ça.
Putain, c'est clair, j'aurais dû le mettre. C'est pas copyright, hein, Johnny One.
C'est ça pour le test, exactement.
C'est pas moi qui vais faire le test.
C'est vrai?
Non, je pense pas.
Par contre, c'est toi qui fais le test.
Faut que je le note, Mikasa as Tsubasa. Alors, voilà, merci. Hop.
Par contre, le test de
Ouais, le test d'après, c'est moi qui l'ai fait celui-là. Exactement.
Et d'ailleurs, c'est le test numéro 2.
Nos paroles se complètent, c'est fou.
Exactement.
Quelle transition, mais c'est
raison.
Incroyable.
Ça, c'est de la transition.
On dirait que ça a été bossé à l'entraînement, c'est fou.
C'est vrai.
Donc, alors, Johnny One, justement. Journée, tu dis Savage Planet, et oui, tout à fait.
Tu as
donc,
pu
un
faire
jeu
ce
qui,
test,
est,
hein.
Qui est sorti un peu de nulle part, hein, qui, a été avancé, qui a été annoncé au Game Awards, si je ne me trompe pas.
L'année dernière.
Donc, il est sorti assez vite. Hein,
normalement, oui.
Enfin, l'année dernière, en 2018.
Ah, non, ouais, bon, bah non, ça fait un petit moment.
Actualisé, les mecs.
Donc, non, bon, il a mis une petite année pour sortir. On l'avait suivi de loin.
T'as vu,
il est là. Ouais, ouais. Il y a un petit oiseau qui chie des trucs bleus. C'est très, très, très mignon. Donc, Journey to the Savage Planet, c'est quoi? Bah, c'est un jeu d'aventure, d'exploration, où on va explorer une planète
sauvage,
désertique,
j'ai envie de dire.
Sauvage, voilà.
Oui, mais en fait,
exactement,
elle est quand même luxuriante.
Qui s'appelle ARY23. Elle a un super nom. En fait, qui c'est qui nous envoie là-bas? C'est Kindred Enterprise, Kindred Aerospace. Bah, en fait, qui recrute des colons à droite à gauche pour aller checker la viabilité de la colonisation de certaines planètes dans la galaxie.
Ça craint ou pas?
C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il craint ?
Je sais pas, tu vas crever sur place ?
Bah ouais, c'est dangereux comme métier un petit peu, parce que bah, du coup, tu sais pas sur quelle planète tu vas débarquer. Toi, la tienne, c'est ARY23, donc. Et quand tu débarques, bah, tu vas très très vite te rendre compte de quelque chose, c'est que bah, cette planète, elle est peut-être pas si sauvage que ça. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des ruines d'une civilisation qui traînent là. Des ruines, des petites statues, des petits temples, ce genre de trucs, et notamment une espèce de tour géante que tu peux voir au loin. Donc bah, qu'est-ce que c'est que ce délire, qu'est-ce que c'est que ce bazar, bah, ça va être à toi de mener l'enquête, surtout qu'en plus ton patron de Kindred Enterprise qui te parle, lui tout le temps il te parle via message interposé dans des vidéos, bah, lui il va chercher à connaître tous les secrets de cette planète et il va te pousser à y rester et à explorer et à trouver le fin mot de l'histoire. Qu'est-ce que c'est que toutes ces ruines d'une ancienne civilisation qui semble plus évoluée que la nôtre. Qu'est-ce que ça fiche là ? Voilà. Donc ça, ce sera la mission qu'on va avoir dans le jeu. Tout ça avec un ton résolument décalé. C'est-à-dire, le jeu est drôle du début à la fin. Tout est prétexte à la rigolade. Tout, absolument tout, de la moindre description dans un menu, à la ligne de dialogue, ou même les features de gameplay sont aussi rigolotes. Alors déjà, le jeu, en termes de visuel, il est assez beau, hein. On a des décors très chatoyants, c'est vraiment un univers qui est joli.
Et des couleurs pétantes.
Voilà, exactement. Clair. Les graphismes sont pas extraordinaires, mais de par le design du jeu, eh ben, on en prend plein les mirettes, et tout le temps, quoi. Vraiment, à chaque fois qu'on va découvrir une nouvelle zone, ça va être waouh, c'est beau. Vraiment, c'est cette réaction là qu'on va pouvoir avoir,
ça rappelle un petit peu Subnautica au niveau du graphisme. Un petit peu.
Et donc on a ce ton qui est vraiment décalé tout au long de l'aventure, où je sais pas, qu'est-ce que le bestiaire par exemple, les monstres, les premiers monstres qu'on va croiser, donc on a des espèces d'oiseaux globuleux tout ronds qui nous aiment, qui viennent nous faire des câlins. Voilà.
Il fait quoi le narrateur,
ouais,
lui
c'est pas le narrateur, lui, c'est ton boss en fait.
c'est les banquiers ou les poissons viennent te bouffer les peaux mortes.
Donc voilà, le bestiaire est drôle, tout est assez délirant dans cet univers. Les dialogues sont aussi très croustillants. Par exemple, tu es accompagné par une IA qui te parle. C'est ton seul compagnon. D'accord. Sur cette planète.
Donc cette IA te passé, là, Martin, je sais pas quoi.
Non, Martin Tweed, c'est ton boss. Donc l'IA, elle te parle tout le temps, et elle raconte plein de conneries en fait. C'est assez rigolo. C'est comme si c'était un espèce de petit claptrap mais en moins débile. Elle est un peu plus intelligente quand même. Tu vois là par exemple, on ouvre une porte, qu'est-ce qu'il faut faire pour ouvrir la porte ? Il faut mettre un coup de latte dans un oiseau pour nourrir la porte. Enfin, voilà, il y a quelques features de gameplay qui sont assez décalées aussi. Par exemple, l'attaque au corps à corps, c'est pas un coup de poing, non, c'est une volée de claque. Okay. Voilà, qui n'est pas très efficace. Voilà. Ouais. Là, la petite volée de claque. Là, non, il devrait pas faire ça sur cet ennemi-là, il va exploser. Voilà.
Du coup, il est dead.
Donc voilà, ce ton décalé qu'on retrouve aussi dans le gameplay, on va le retrouver dans l'univers. Dès qu'on va rentrer à notre vaisseau, on va avoir droit à des fausses publicités. Alors, il y en a une petite dizaine de fausses publicités qui ont été tournées par l'occasion. Ah, et ouais. Pas mal de films live où donc on a donc ce cher Martin Tweed. Donc le boss de Kindred Aerospace qui vient nous parler. Alors pourquoi est-ce que je prends un accent québécois un peu? Parce que le jeu est entièrement, la version française est entièrement une version française québécoise. Voilà. Donc on a...
Tu te rends compte que t'es plus proche de l'accent belge là, hein.
Ouais,
tu t'en rends compte, hein.
Bon, ouais, c'est...
Ah, c'est vrai une fois.
Ah bon, putain, non, tout ce racisme.
C'est toi qui es raciste.
Excusez-moi.
T'as eu le grob. Ah, le grob.
Donc le grob, ouais, voilà. Donc on a le jeu, et il n'a pas de version française. Enfin, si, il a une version française, mais c'est une version québécoise, quoi. Mais c'est pas la version québécoise qu'on a dans les films québécois, hein. Non, là c'est la...
Attends,
vraie...
mais c'est pas un jeu québécois.
Si, c'est des... Alors Typhoon Studio, c'est un studio québécois.
D'accord, ok.
Moi, j'en ai pas parlé, tu sais.
Ils se sont dit que ça allait faire marrer les Français.
C'est des anciens DA de Warner Bros et Dubi. Voilà, donc trois studios qu'on retrouve là-bas à Québec. Ils se sont tous barrés. Ça c'est tu choisis ton avatar au début du jeu.
Moi j'ai pris lui qu'ils ont
je crois que mon préféré il est en bas à droite, hein. Il a l'air complètement défoncé.
J'ai pris l'Induo.
Je veux dire, là c'est parfait.
Moi je prends le chien,
l'espèce de sous Chuck Norris là, moi j'ai pris, voilà.
Les coupes mulets, tu connais, ou...
Donc qu'est-ce qu'on disait? Ah oui,
la version québécoise.
Voilà, il nous gratifie d'une magnifique version québécoise avec l'accent tabernacle et tout ça là. Enfin voilà, tous ces mots là
tu parles encore en belge, on s'en fout, c'est pas grave.
C'est pas grave.
Tabernacle, hein.
Tabernacle. Tabernacle une fois. Alors voilà, donc le jeu est entièrement doublé en québécois et ça franchement c'est des barres de rire parce qu'on a droit à tout le vocabulaire de nos amis d'Outre-Manche, voilà, qui est très décalé.
Outre-Atlantique même.
Outre-Manche.
Oui, parce que là Outre-Manche,
parce que là c'est les Anglais.
T'as un problème avec la localisation aujourd'hui, j'ai l'impression.
La localisation.
Le mec revient de l'espace. Écoute,
en même temps, il donne des coups de latte dans les petits là.
Faut payer la con là.
Moi je dis t'es à deux doigts de nous faire de Michel Leb, mais j'en dis pas plus.
Moi je pense que t'as trop mangé de grob.
Et donc qu'est-ce qu'on racontait? Oh je ne sais plus.
Tu parles du doublage
québécois. Ouais, ouais, le doublage. Donc le doublage, moi je la trouve top. La VFQ, elle est vraiment 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 top. Voilà, donc tout ça, ça crée un ensemble qui fait que ce jeu est du début à la fin, que ce soit visuellement ou même ce qu'on va venir nous nourrir dans vos oreilles. Et en termes de second degré, tout est décalé, tout est très original, voilà. Et le jeu possède donc une identité propre qui est très forte. Et ça, c'est un très bon point. C'est extrêmement séduisant. On prend plaisir à découvrir cet univers, à le voir évoluer sous les yeux et à le découvrir. Et donc, j'ai pas fini sur Martin Tweed là tout à l'heure.
Ah ouais.
Martin Tweed qui vous envoie des vidéos, donc des vidéos qui sont jouées par un acteur live. Alors vous avez pu voir sa dégaine si vous avez l'image. Donc le mec, il a déjà un style très particulier physiquement, quoi, voilà. Et donc il est complètement déjanté. Et c'est lui qui nous refile nos missions entre deux points importants du jeu. Voilà. Donc ça, en termes de design, franchement, c'est une franche réussite, vraiment. Là où on va pouvoir chercher un petit peu des noises au jeu, c'est plutôt malheureusement sur le gameplay qui là pour le coup est un peu plus classique et son identité elle est peut-être un peu moins forte. Qu'est-ce qu'on nous propose dans Journey to the Savage Planet? On nous propose un jeu d'exploration vu FPS où on va avoir un petit peu de combat, mais les combats franchement ils sont pas très palpitants. Contre les boss, il suffit d'exploiter la bonne mécanique au bon moment, la bonne arme, la bonne pirouette de gameplay, ça passe tout seul. Il n'y a pas vraiment de challenge dans les combats. Les combats ils vont plutôt être là pour un peu rythmer l'aventure et surtout pour récolter des ressources. Ressources qui vont nous servir, ça c'est notre objectif principal en fait. Des ressources, pourquoi? Pour se fabriquer de nouveaux outils, parce que Kindred Aerospace ils sont bien gentils, mais ils nous ont envoyé avec le couteau et
ce qu'on a
dans le slip, quoi, voilà. Et c'est tout, donc ça va être à nous de nous construire notre propre stuff. Pour ça on a une imprimante 3D dans le vaisseau, bon, qui est une feature gadget au final, puisque c'est très ronflant mon imprimante 3D, mais en fait c'est juste un menu avec des upgrades, voilà. Donc les combats, ouais, donc ils vont surtout servir à farmer en fait un petit peu, même si le farm il se passe plutôt bien. En fait, on n'a pas vraiment besoin de farmer dans ce jeu. Si même sans trop faire toutes les quêtes secondaires, il y a une ou deux fois où j'ai eu besoin d'aller récupérer des ressources et c'est tout. Par contre, quand j'ai eu besoin d'aller récupérer des ressources, là où j'ai eu un petit problème, c'est que je savais pas forcément où est-ce que j'allais pouvoir les trouver. Donc, il a fallu fouiner un petit peu. Et notamment, je me suis contenté d'un seul ennemi que j'ai fait respawn à volonté, à l'infini, en m'éloignant
un
peu.
Comme un bon vieux RPG.
Exactement. Voilà. Mais il n'y en avait qu'un seul dans la zone, quoi. J'en ai trouvé un, j'ai fait « Ah, lui, je sais que
je lâche
ça,
plus.
Je le lâche plus. » Voilà.
Après, donc, ça me choque pas que ce soit pas très compliqué, puisque, enfin, à t'écouter, on a l'impression que c'est vraiment un jeu que tu joues pour te marrer,
ouais,
pour passer
ouais.
un bon moment, pour profiter de la déconne et du style.
Oui. Bah, tu dis que c'était linéaire et tout, donc.
Ouais, ça, c'est un autre petit reproche qu'on peut faire au gameplay, qui, je vous dis, le gameplay est un peu générique, voilà. L'exploration, elle est un peu linéaire. Alors, le level design, il est bon, hein, il est même plutôt bon, mais il manque plusieurs choses. La première, c'est une carte, on n'a pas de carte. Du coup, on sait pas vraiment où on est, où est-ce qu'on va, comment on y va.
Oui, mais si c'est linéaire, tu peux pas te perdre. Du coup.
Oui, et tu te perds pas, tu sais pourquoi? Parce qu'il y a des téléporteurs. Voilà. En fait.
D'accord.
Donc tu te sers pas mal des téléporteurs pour aller à droite à gauche. Tiens, le téléporteur qui est une petite mort en fait, hein. On te tue pour te recréer ailleurs.
Ah oui.
Voilà, donc ça c'est assez amusant, on te l'explique et tout dans le jeu.
Scientifiquement ça se tient.
Oui, oui. voilà, donc toi, ta petite IA qui te fait une blague là-dessus. Tu sais quand tu vas mourir quand je vais te téléporter, voilà. Donc on a ce genre de choses là. Ouais, le gameplay est un peu linéaire. Moi j'ai trouvé l'exploration un peu linéaire, c'est-à-dire qu'on a trois grandes zones définies. Ces grandes zones, elle donne l'impression au départ d'être un monde pseudo semi-ouvert qui va répondre à des mécaniques Metroidvania, c'est-à-dire que tu vas avoir besoin du grappin à un moment, du double saut à un autre moment, du dash à un autre moment, voilà. Et en fait, ça va toujours être la même progression, c'est-à-dire qu'on avance un peu tout droit jusqu'à tomber sur un endroit avec plusieurs embranchements. Mais ces embranchements, qu'est-ce qu'ils vont nous demander d'avoir? Ils vont nous demander d'avoir les améliorations, les upgrades pour pouvoir continuer. Et là, le jeu vous force. Quand vous arrivez à... Alors, il y a je disais trois grandes zones, quand entre chaque grande zone, pour passer de l'une à l'autre, le jeu vous force à aller récupérer des upgrades. C'est-à-dire tu peux pas continuer dans le jeu si t'as pas fait les missions secondaires. Ça, j'ai trouvé ça un petit peu dérangeant. Enfin voilà, il y a une fausse impression de liberté. En vrai, le jeu est surtout très linéaire, quoi. Voilà.
Est-ce que c'est pas pour gonfler un peu la durée de vie, justement ?
Peut-être. Peut-être, probablement.
On peut s'attendre à quoi, justement, le temps d'en faire le tour ?
Tu peux le speedrunner en très peu de temps, hein, quelques heures, une poignée d'heures.
Okay.
Je dirais entre 10 et 20 heures, selon ta propension à... Moi, j'ai mis entre les deux, en fait. Hein,
à tout looter.
Parce que j'ai pas fait le jeu à 100%, je l'ai pas rushé comme un gros porc non plus. Et c'est à peu près ce que ça m'a pris, entre 10 et 15 heures. Oui, si vous explorez les moindres recoins, que vous cherchez les moindres secrets, que vous voulez faire le trophée de platine, là, oui, bien sûr, ça va durer longtemps. Mais... Le jeu peut aussi se rusher assez rapidement. Voilà. Même si on vous conseille pas de le faire, on vous conseille plutôt d'en profiter parce que c'est assez rigolo en fait. Ça vaut vraiment le coup. Voilà. Donc, Journey to the Savage Planet, on a vraiment une DA qui est fantastique. Un jeu sur ce côté-là, c'est très très fort. Voilà, vraiment. Mais après, là où on va pouvoir lui faire 2-3 petits reproches, c'est sur ses mécaniques de gameplay qui sont peut-être pas forcément... Enfin, voilà, on reprend des choses qui existent déjà à droite à gauche. On en fait un melting pot. Ça marche plutôt pas mal, mais c'est pas ultra palpitant. Et vraiment, ce qui vient le sauver et rendre ce jeu très très bon,
c'est le Québécois.
C'est sa DA, quoi. Voilà.
Ah, le Québécois.
Voilà, voilà. Donc, si vous aimez la science-fiction, si vous aimez l'humour, vous aimez vous rigoler, vous aimez rire dans la vie.
Surtout
voilà.
Des gens qui savent pas faire un accent québécois.
J'ai rire une fois.
Si vous aimez l'accent québécois, si vous aimez ce genre de jeu,
l'accent belge,
jeu d'aventure, un peu RPG, un peu action, bah franchement, Journey to the Savage Planet, c'est très bon et on vous conseille de vous pencher sur son cas. Un petit mot sur la technique, on en a pas parlé.
Ouais.
Bah ça tombe plutôt pas mal.
Bah ça
tombe
plutôt bien.
Ouais, 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 ouais. C'est pas les modèles 3D de la décennie. Hein. C'est pas.
Tu l'as testé sur quoi?
C'est pas Horizon Zero Dawn. Moi j'y ai joué sur PS4 Pro.
C'est ça.
Mais ça tombe très bien. Le jeu est très bien fini pour un petit studio dont c'est un petit studio. Qui est fait d'anciens, de gros studios, un studio dont c'est le premier jeu, franchement, bon, on dirait pas. Voilà. On dirait pas que c'est
par Google.
Jeu. Ouais, Typhoon Studio a été racheté par Google Stadia, mais il n'y a pas d'exclus sur ce jeu-là. Voilà. D'accord. Leur prochain jeu sera une exclus Stadia, probablement, mais pas celui-ci. D'accord. Celui-ci, je sais même pas s'il a été annoncé sur Stadia. Voilà.
Peut-être pas.
Donc, ouais, Journey to the Savage Planet, très bonne
pioche. Merci beaucoup,
Johnny. Un des bons jeux du mois de janvier 2020.
Ouais, tout à fait. Et il en faut. D'ailleurs, tu as mis 8 sur 10 hein,
ouais,
pour le
8
test.
Sur 10, tout à fait.
À lire sur Gameblog si vous l'avez loupé. Donc, n'hésitez pas une seule seconde. On va passer maintenant à d'autres tests qui sont sortis cette semaine, que vous avez pu lire sur le site également.
Ah, absolument.
Plume et Thomas. Deux jeux dont...
Le test de Plume était plutôt pas mal.
Dont on a...
Ah, lequel la Plume a une bonne durée de vie, mais...
C'est vrai ?
Ah oui. Oui, c'est vrai.
Tu connais Andy Gain, tu sais pas ?
Bien sûr. Non, bah, c'est une division de THQ Nordique, tu crois que tu vas me la faire ?
Il est plutôt bien habillé, mais au niveau de la vision, ça déconne un peu. Il a fallu mettre des lunettes.
Non, j'ai des super yeux, je te le dis.
Ah, des super yeux.
Au niveau de l'IA, il y a des fois où il bug un peu, il y a des boucles un peu visibles.
Des boucles temporelles.
Non, c'est pas mal, allez, 8 sur 10.
Alors, Plume, tu vas nous parler de Through the Darkest of Times.
Alors, Through the Darkest of Times, que Thomas avait pu essayer à la Gamescom dernière, qui m'avait beaucoup intéressé au moment où lui, il en parlait. Parce que c'est un jeu qui va vous parler d'une période qui est très sombre. Qui colle parfaitement avec l'actualité du moment qui est de célébrer la libération d'Auschwitz. C'était il y a 75 ans déjà, et Through the Darkest of Time, lui, va s'attarder sur un pan de l'histoire qu'on connaît pas forcément. Nous, en Allemagne, c'est enseigné dans les bouquins d'histoire, évidemment. C'est la résistance allemande. La résistance allemande qui a commencé en 1933. À l'accession d'Hitler à la chancellerie d'Allemagne, et qui s'est évidemment terminée au moment où la guerre prenait fin. Et encore, à la fin de la guerre, c'était pas encore trop facile de réussir à convaincre certains nazis ou certains soldats endoctrinés qu'il fallait rendre les armes et ne pas continuer à faire n'importe quoi. Donc pendant une douzaine d'années, donc avec des périodes bien précises pendant lesquelles vous allez être actif, bah, vous allez incarner le chef d'un groupe de résistants de Berlin, le chef ou la chef d'ailleurs, hein, vous pouvez choisir
la chef telle.
Le sexe au début de votre campagne, suivant un jet de dés. Ça va être à chaque fois un personnage aléatoire. On va vous donner des traits, en fait, très caractéristiques de sa personnalité plutôt, et de ses croyances. Alors vous pouvez jouer un chômeur communiste, comme Thomas.
Ou, c'est le personnage avec lequel t'as commencé, donc arrête.
Ou un enseignant
rouge,
un enseignant
royaliste,
royaliste comme Johnny Wan.
Tout à fait, n'est-ce pas?
Vous avez vraiment des
contraire, mais bon.
Différents profils comme ça qui apparaissent. Vous savez pas trop pourquoi au départ.
C'est vrai.
Bah, tout simplement déjà parce que la résistance
résiste.
Ça a toujours été non pas des existes. Groupes uniformes, mais enfin. Ça, c'est la vision que j'ai pour la France.
Une galaxie
mais
de groupuscules.
C'est une galaxie de groupuscules parmi lesquelles il fallait parfois trouver des ententes politiques entre des personnes qui n'en avaient pas à la base et qui devaient aussi s'allier pour le bien d'un pays.
Bref, de l'Allemagne.
C'est ce genre de caractéristiques va vous servir au moment où vous allez commencer à agir, c'est-à-dire que vous vous retrouvez avec une carte de Berlin. Et chaque tour qui correspond à plusieurs jours
attends,
passés.
Mais c'est quoi la période? Je crois que tu l'as pas dit dans
de 33 à 45.
D'accord, ok. Faut
et donc chaque tour, vous allez envoyer les membres de votre équipe, un ou plusieurs membres de votre équipe, se charger de missions bien précises qui sont éparpillées partout sur la carte et qui sont plus ou moins dangereuses. Il faut faire attention à ça d'ailleurs. Parce que plus quelque chose est dangereux, plus vous avez de chance eh bien, de vous faire repérer ou d'avoir l'impression de vous faire repérer et du coup d'avoir une pression assez insoutenable qui pèse sur les épaules du personnage que vous allez employer. Bref, une fois que vous avez décidé quelle action vous allez faire, alors ça peut être tout simplement demander de l'argent parce qu'il faut essayer de maintenir les comptes à flot, en même temps que le moral, en même temps que le nombre de troupes. Et il faut essayer aussi de bah, justement de changer les mentalités. Alors ça peut passer par le fait d'acheter du papier pour faire des tracts, acheter de la peinture ou essayer d'en voler pour bah, écrire sur les murs justement que Hitler faut arrêter. Tout ce genre de choses.
Salaud.
Exactement. Et il y a des tas d'actions comme ça sur lesquelles il faut se pencher à chaque tour parce que si vous faites rien, évidemment, le moral va baisser et le groupe va tout simplement se décomposer,
se liquéfier
et se dissoudre, ce qui fait que bah, ça n'aura pas servi
game
à grand chose.
Tu l'as testé le game over ou pas?
Oui, j'ai testé le game over et je dois vous avouer que c'est très difficile d'avoir un game over parce que le jeu est un petit peu trop simple. Alors. Je vais venir sur cette partie. Donc, le fait est que c'est un jeu de stratégie qui est pas très profond.
Tiens, Eva Mendel.
Il n'y a pas une grande complexité dans les commandes. Il n'y a pas une grande complexité aussi dans ce qui aurait pu être fait pour essayer de créer un peu plus de tension. C'est-à-dire que vous recrutez effectivement des personnes dans votre groupe. Par moment, c'est des moments souvent, on va dire scriptés. Vous avez des doutes, des personnes sur lesquelles vous commencez à vous dire tiens c'est peut-être un mouchard, peut-être que je vais falloir que je l'écarte du groupe, ou alors parce que vous aurez trop galéré sur certaines missions qui auront été dangereuses, vous retrouverez avec certains qui iront directement dans les bureaux de la Gestapo et vous apprendrez leur mort le lendemain, ce qui aussi minera le moral des troupes. Bref, il pourra se passer des tas de choses, mais il n'y a pas de gestion en fait de cette tension et de cette suspicion qu'il peut y avoir, chose qui aurait pu être intégrée vraiment je pense pour rendre le jeu un peu plus intéressant que ce qu'il n'est, parce que au final on se trouve vraiment avec un enchaînement de toi tu vas là, toi tu fais ceci, etc. avec de temps en temps bon là lui ça commence à être chaud, les Bosch, enfin pardon les SS vont savoir, ouais, pardon, oh là là, excusez-moi, je me suis cru dans les grosses têtes, l'espace d'un instant, je me suis cru dans les grosses têtes. Après c'est du langage d'époque aussi. Les SS,
bah oui c'est ça.
Les SS vont les repérer, et du coup ils auront des chances de se faire choper, donc il faudra les envoyer dans une planque, et ça coûte que 10 marks, donc franchement. C'est pas difficile de réussir à maintenir son groupe à peu près à flot jusqu'au bout de la partie, quel que soit le scénario, enfin le mode de difficulté choisi. Il y a deux modes, dont un qui est présenté comme très facile, c'est celui que j'ai fait en premier, et l'autre qui est censé nous dire, on est censé nous dire, pas le droit à l'erreur. Bah ouais, j'ai fait des erreurs et ça m'a rien coûté quasiment, et ça m'a permis de voir aussi que le jeu était quasiment identique d'une partie à l'autre, alors que j'avais un personnage très différent à chacune. C'est des choses d'ailleurs, les affectations politiques et les différentes capacités, que ce soit en propagande, en force, en empathie, en culture, et j'oublie encore une caractéristique. Toutes ces trucs-là, en fait, Vous pouvez réussir à les équilibrer assez facilement. Il n'y a pas de handicap au final. Vous pourrez toujours recruter quelqu'un qui va répondre à vos besoins pour les missions bien précises, etc. Donc il n'y a pas de grande difficulté, il n'y a pas une grande complexité, mais c'est peut-être fait exprès. Johnny.
Donc un joueur comme moi qui dans les jeux de stratégie aime faire le clean sheet et la partie parfaite, ce jeu est pour moi. Ouais. Ce sera très facile.
Oui, ce sera simple. Ouais. Ce sera vraiment très simple. Je suppose que les développeurs ont voulu que ce soit aussi simple pour en faire plus un jeu éducatif qu'un jeu vidéo à proprement parler. Parce que comme je vous le disais, on revit quasiment la même chose d'une partie sur l'autre, avec parfois des petites variations, évidemment, en fonction des personnages que vous avez recrutés. Je pense que le but, vraiment, c'est davantage de nous éduquer. Et de ce côté-là, il le fait, mais alors extrêmement bien. Il n'y a pas de, concessions qui ont été faites pour essayer de vous cacher des éléments de l'histoire, de cette sombre histoire de l'Allemagne de 33 à 45. Vous allez, en tant que personnage principal, vous retrouvez au cœur d'événements qui ont marqué l'histoire, hein, que ce soit des purges, des rafles, des passages à tabac dans la rue. Après, ça sera à vous de choisir si vous voulez intervenir, si vous voulez observer, si vous voulez témoigner. Et ça aura des impacts, évidemment, sur le déroulement de la partie et sur les choses que je vous expliquais, le moral et le nombre de personnes qui vous suivent et le nombre de personnes aussi qui vous accompagnent au sein même de l'unité. Et de ce côté-là, vraiment, en termes d'art, déjà la direction artistique qui est absolument morose, vous pouvez le voir, hein, les dessins, c'est quelque chose d'assez triste et ça reflète bien le propos. Les musiques parfaitement d'époque, il y a des petites jazz qui passent de temps en temps, des pianos un peu plus sombres qui s'abattent avec des lourds silences pour les moments un peu plus graves, suivis d'autres bruitages qui font très oppressant aussi. De ce côté-là, c'est vraiment très réussi. Les différentes séquences que vous allez vivre, que ce soit des moments très tristes ou des rencontres qui peuvent être elles, peut-être pas joyeuse, mais au moins porteuse d'un peu d'espoir, même si ça implique de s'allier par exemple avec des personnes avec qui vous n'iriez pas forcément. Je pense notamment aux communistes et à la Russie.
Bravo. Les communistes
de Staline, n'est-ce pas?
Ok, Camille.
Et donc, excuse-moi, Staline, tu vas pas me dire que c'était un grand démocrate?
Non.
Que si.
Bon, après, il a aidé,
tu vois,
forcément.
C'est ce qu'il l'a dit.
Bah, après, dans cette guerre, forcément, il a aidé, mais il y avait aussi des intérêts. Mais bref. De ce côté-là, du côté historique pur, c'est vraiment une grande réussite. C'est très très bien amené. Il n'y a pas de truc en trop. Mais c'est vrai que côté jeu, ça pêche pas mal. On aurait pu espérer quelque chose d'un peu plus. Après, comme je vous dis, je pense que c'est fait exprès pour vraiment nous laisser parcourir toute cette période.
Cette merde.
Ça prend à peu près 4 à 5 heures. Par contre, c'est dommage. C'est vrai que si ça avait été un jeu un peu, vous savez, avec un petit côté généré aléatoirement à la FTL, par exemple, où de temps en temps, on vous met des trucs que vous êtes sûr de ne jamais revoir dans une autre partie, ça aurait pu lui donner un peu plus de profondeur.
Oui, parce que là, du coup, tu le fais une fois, c'est fini, quoi.
Bah, tu le fais une fois, tu.
Quasiment.
T'as quasiment pas d'intérêt de le refaire.
Ouais, c'est ça.
Voilà. L'intérêt, par contre, c'est vraiment de le montrer, je pense,
à toutes les écoles.
À des mômes, absolument. Tu le montres à des mômes, tu le montres à des gens qui n'ont pas connaissance de ce qu'a été le fait d'être allemand à cette période. Parce que. On le dit jamais assez. Tous les Allemands n'étaient pas des nazis à cette période. Il y a eu des gens qui ont subi.
Il y en avait deux ou trois, c'est tout.
Et qu'il y en a qui ont résisté aussi, et que raconter l'histoire de ceux qui ont résisté, c'est très important, surtout en cette période où le jeu aussi permet de nous interroger, notamment sur le fait que Hitler a accédé au pouvoir. Alors il n'a pas été élu, hein, il a été nommé, mais il avait le peuple derrière lui, et que ses idées, pourtant, elles étaient bien connues à ce moment-là.
Il a remporté les législatives pour être nommé. Hein.
Il a remporté les législatives plus tard, mais il a été nommé. Il a été nommé par le président. Je crois que c'était le 31 janvier.
En janvier 33.
Ouais. Ouais. Et je crois qu'il a gagné les législatives en novembre de la même année. Et là, il a eu les pleins pouvoirs. Il a fait ce qu'il voulait. C'était le début du gros n'importe quoi.
Mais après, c'est devenu Palpatine.
Exactement. Et donc voilà, c'est bien de se souvenir que les gens qui ont gagner le pouvoir et qui ont des idées un petit peu extrêmes, faut pas forcément leur accorder notre confiance et que voilà si, si. Et que la haine des autres, c'est pas non plus une grande solution. Et je trouve que c'est un des beaux messages, enfin un message évident que le jeu transmet. Et il le fait très bien, tout en nous faisant nous interroger sur le fait que nous les humains, finalement, on est cons.
On est de beaux salopards.
Exactement.
Bah la preuve, 75 ans après, t'as l'impression que ça recommence quoi. Donc
c'est pour ça qu'ils tombent.
Personne ne retient les leçons. Regarde, rien qu'avec le coronavirus, t'as tous les asiatiques qui sont pointés du doigt.
Exactement. Ouais.
Alors là, tu te poses la question, bah attends, mais pourquoi? Et tu dis, ah oui non, c'est parce que les gens sont très cons. Okay.
Autant les chauves-souris, je comprendrais. Mais les asiatiques, ouais. Voilà.
Bref. Quand j'étais allé le voir, ils se posaient encore la question de savoir s'ils allaient proposer justement une version alternative de l'histoire en fonction de tes agissements.
Alors moi, j'avais entendu parler d'un New Game Plus. Où tu pouvais
plus
sauf que je l'ai pas eu.
Ok.
Alors peut-être que j'ai loupé une mise à jour.
Après vraiment, ils s'interrogeaient hein, quand ouais. Je l'avais vu en hands off, c'était ils faisaient part de leur réflexion comme ça, qui était en cours. Ça voulait pas dire qu'ils allaient forcément le faire, mais ils se demandaient si ils pouvaient peut-être orienter le jeu et te permettre de détrôner Hitler, enfin ou de tuer Hitler avant.
Une dystopie à la Inglorious Bastard pourrait le faire. Hein. Moi, ça m'aurait pas déplu.
Le spoiler.
Mais bah oui, c'est une dystopie. Qu'est-ce que je te dis?
Et... j'ai jamais vu, merci.
C'est vrai?
Mais je le verrai pas.
Ok. C'est à voir. Ou à la Wolfenstein,
grâce
évidemment.
À toi.
Un des meilleurs Tarantino.
Oui, il est super.
C'est vrai?
Et... mais non, là, je n'ai pas eu ça. J'ai fini le jeu et puis rien.
Ok. En termes de choix de couleurs, d'air, etc., oui. Ça me fait penser aussi à My Memory of Us. Qui
absolument,
était
oui.
Justement,
absolument.
Qui dépeignait les tristes événements
les plus enfants
de Varsovie. Et c'est marrant, on dirait que c'est marrant, c'est pas le terme qui convient, mais
c'est marrant même.
Mais on dirait que tous les jeux qui dépeignent un peu cette période jouent
merci
beaucoup,
la liste de Schindler.
Jouent beaucoup ouais, sur ce contraste entre noir, blanc et rouge, je l'ai pas vu non plus. Donc,
Si t'as pas vu la liste de Schindler, on peut rien faire pour toi. Hein.
Ok, je fais quoi, je m'en vais
oui.
Ou...
D'accord.
Oh, oui. Bah, oui. Va voir, là, t'as deux films à aller voir là, ce soir.
T'as
là.
Deux voilà, films. Allez.
Ok, rendez-vous dans 20 ans.
Donc voilà,
c'est
un bon jeu.
Inglourious Basterds, l'ordre que tu veux.
Un bon jeu qui mérite vraiment qu'on se penche dessus, mais qui est peut-être. Qui aurait mérité vraiment d'être un peu plus profond pour être, en tout cas ludiquement, très bon. Malheureusement, il n'est que bon. Voilà. Mais pour le reste, si cette période vous intéresse et que vous voulez vous éduquer un petit peu, allez-y.
Merci beaucoup, Plume, pour ce jeu donc, que tu as pu tester. Cette semaine sur Gameblog, donc à lire hein, si vous voulez.
Disponible uniquement sur PC pour l'instant.
Tout à fait. Et Mac avait marqué.
PC, bon, Mac, et Mac aussi, et mais Mac. Bon, excuse-moi, mais je joue pas sur Mac.
C'est vrai ouais. Ça va pour Poufy, ça. Le deuxième titre dont on voulait parler, c'était celui que Thomas a pu tester aussi.
Et que tu veux pas prononcer, c'est ça?
Non, bah moi je te dis 198X, mais après. Ou 1980X.
190X, j'avais pas pensé ça.
Ou 1980X.
Ouais, en l'occurrence,
198X.
La 1980X, qui est une espèce de lettre d'amour en fait au jeu d'arcade des années 80.
Je trouve que c'est plus beau que ce que je pensais.
Tout est dans le titre en fait, ça va être une espèce de célébration de lettre d'amour résolument nostalgique du jeu d'arcade en fait des années 80.
Exact. Et pas du tout pompé.
Alors, mais pompé.
Alors, pas du tout.
Mais jusqu'à la moelle, mais complètement assumé en fait, puisque c'est un peu le récit qu'on imagine assez autobiographique d'une jeune adolescente. Joué par Maya Tuttle, qui est l'ex-chanteuse et batteuse du groupe des Tourists, c'est ça?
J'en ai aucune idée, je ne connais pas
ça,
ce
la
groupe.
Musique, tu connais, hein, mais le cinéma...
Je suis
hein,
désolé, je...
Excusez-moi, on ne peut pas exceller dans tous les domaines.
C'est vrai.
Mais pour le coup...
C'est déjà un Park Action. Hein.
Ouais, mais t'inquiète pas, c'est en cours.
Coming of Age Action.
Et du coup, cette jeune adolescente, elle cumule un petit peu tous les clichés, en fait, du vague à l'âme de cette époque-là. C'est-à-dire qu'elle vit en banlieue.
Elle est ado.
Elle s'ennuie, avec ses parents, c'est compliqué, il pleut dehors, et...
Oh là là, j'ai trop mangé à midi.
Oh là là, qu'est-ce que c'était quand même super bien quand on était jeune et que la vie était plus simple et qu'on s'endormait dans la voiture des parents en rentrant d'une soirée chez des amis. Enfin voilà, ça joue énormément sur le pathos de la nostalgie d'une époque révolue, de l'enfance disparue à jamais. Mais vraiment, ça y va, mais à fond. Il n'y a pas beaucoup de subtilité. L'interprétation de Maya Tuttle est pas très nuancé, enfin J'ai pas accroché. Je comprends le.
C'est elle qui double tous les personnages ou pas? C'est une question que.
Non, il y en a que.
Ah, ok, ça va.
Il y a vraiment que
cette. Des fois, on voit des trailers où il y a.
Il y a une voix pour 50 personnes.
Des jeux avec des grands-mères, c'est ça, et des dragons. Bref. Non, ça va vraiment trop loin. Ça enfonce tellement de portes ouvertes qu'au bout d'un moment, tu te retrouves à soupirer devant l'histoire.
Oui, mais comme tu dis, si c'est assumé, c'est pas grave.
Qui en plus a tendance à traîner en longueur alors que pourtant le jeu est très très court.
Quand t'as R-Type, tu connais.
Grosso modo, il se termine en 1h30, 2h, et pourtant il y a des moments où je me suis dit putain, il faudrait que ça avance, les gars, on commence quand même un petit peu à s'ennuyer. Mais heureusement, entre deux phases de narration, on a justement cette célébration des jeux d'arcade qui sont un peu voilà, l'exutoire de cette jeune fille, le moment où elle va se retrouver un peu libre, c'est quand elle va à la salle d'arcade, qu'il y a des gens super cool, et du coup elle se dit moi aussi je veux être une gameuse.
Exact, elle a raison.
Et passer ma life à doser justement des titres à la Outrun, à la Final Fight, Streets of Rage, etc.
Elle aurait pu devenir youtubeuse à l'époque.
Ouais, bah elle aurait été un peu âgée, je pense, aujourd'hui quand
tu
même.
Pour faire ça.
Et pas YouTube à l'époque 13.
On enchaîne
si,
en fait les phases de gameplay qui sont à chaque fois des hommages complètement pompés justement à des grands titres de l'arcade. Donc on a vu Outrun, on a vu un Beat'em All, il y a du shoot them up horizontal à la R-Type avec un peu de Gradius. Voilà, histoire de vous replonger avec toujours cette idée de ah oh là là, c'était quand même bien avant dans les années 80.
80.
Et le problème c'est que.
Ils ont eu un procès.
Il n'y a pas de proposition très intéressante et très novatrice en fait, parce que les grosso modo les 5 jeux rétro que vous allez pouvoir essayer entrecouper des phases de narration, c'est vraiment comme si vous prenez un petit bout justement d'un beat'em all, d'un shoot de l'époque, vous changez les graphismes, parce que pour le coup le pixel art est absolument mais magnifique, moi j'ai trouvé que le jeu était somptueux.
Moi, j'aime bien,
il y a des animations vraiment mais à se rouler par terre, tellement c'est beau, tellement c'est fait à la main et avec beaucoup d'amour. Le problème, c'est que pendant ces phases où on joue, eh ben en fait, il y a rien de neuf. C'est-à-dire que la petite phase de beat'em all, eh ben ça va être un bouton d'attaque, un bouton de saut. Tu peux cumuler les deux, tu peux ramasser une batte et récupérer un peu d'énergie, mais c'est tout. Tu vas défoncer des punks à chien avec des crêtes et puis des meufs au collant troué avec du swap color en veux-tu en voilà. Et en fait, à aucun moment le jeu te propose autre chose qu'une phase hyper classique de beat'em all. Le shoot, c'est pareil, c'est grosso modo le premier niveau de Gradius avec un vaisseau à la R-Type. À aucun moment t'as un truc vraiment original. Outrun, c'est une course vue de derrière avec des checkpoints à passer pour pas tomber justement sous la barre du temps. Et en fait, tu parcours le jeu, tu te dis ah ouais, ça c'était Outrun, ça c'était tel jeu, ça c'était un Shinobi-like, etc. Et en fait, t'as rien joué de nouveau.
Et c'est tout quoi.
C'est vraiment des copier-coller, des tout petits bouts de jeux que tout le monde a adoré à l'époque, mais il n'y a pas d'originalité, il n'y a pas de proposition, il n'y a pas de twist, il n'y a pas de réflexion derrière. C'est vraiment un jeu qui passe 2 heures à te dire ah, c'était quand même bien avant. Et grosso modo, ça va pas plus loin que ça.
Mais le mec, il s'est fait plaisir, c'est lui qui a fait ça.
Ouais, alors ils sont quelques-uns à avoir bossé dessus. En fait, ils ont bossé depuis plusieurs pays différents. Il y a un Suédois, il y a un Français, il y a un Japonais qui a travaillé là-dessus. Visuellement, vraiment, on s'éclate, on en prend plein la tronche. Il y a des belles transitions entre les phases de gameplay et les phases de narration. Au niveau de la musique, c'est pareil, c'est du chiptune, mais vraiment qu'on voit super bien. Ouais. Il y a notamment Yuzo Koshiro qui est à la composition, donc voilà, il y a des moments où quand même tu prends ton pied, mais tout ça se termine très vite. Et finalement, bah, t'as pas retenu grand chose, t'as pas été surpris à aucun moment.
Tu vois pas trop le sens du truc, quoi.
Voilà, c'est si vous voulez juste vous faire un petit trip nostalgique avec vraiment la version presque copier-coller de ce qu'étaient les jeux de l'époque. Bah voilà, vous allez vous amuser 2 heures, sachant qu'après, si vous voulez refaire les jeux, il faut refaire l'histoire intégralement. Vous n'avez pas un menu qui se débloque une fois l'aventure terminée, qui te permettrait de dire ah bah tiens, je vais juste faire le Shinobi like qui était pas
c'est
mal.
C'est ce que je veux dire, est-ce qu'on peut faire les jeux indépendamment?
C'est ce que je pensais. J'ai fini le jeu et le dernier, c'est un espèce de RPG vectoriel, tu sais, en vue à la première personne où t'avances d'une action à la fois dans les couloirs avec des combats comme ça un peu aléatoires.
Dungeon crawler.
Ouais, c'est un espèce de dungeon crawler,
un peu à la Vectrex.
Voilà, à la Vectrex avec cet aspect un tout petit peu futuristique. Mais voilà, il y a à aucun moment en fait tu te dis ah putain, c'est pas bête d'avoir fait ça comme ça. C'est vraiment du réchauffé de bout en bout. Et je trouve quand même ça assez dommage. C'est un pur trip nostalgique, il faut vraiment rien en attendre de plus. Donc j'ai trouvé ça finalement assez moyen.
Combien?
Moyen.
Non mais le prix il coûtait cher ou pas le jeu?
Il est à 14,99€ je crois.
Moi j'ai une question.
Ça fait cher l'heure de jeu.
Ouais. Moi je suis très saucé par les visuels franchement.
Mais oui,
je suis prêt à me taper des phases de gameplay mais que je vais aimer même si elles n'apportent rien, rien que pour voir les visuels.
Street of Rage,
et my question is ma question c'est et j'ai vu dans le trailer là un logo Switch, est-ce qu'il est sur d'autres consoles?
Non, je crois qu'il est que sur Switch. Hein.
Ou d'autres machines.
Il est sorti sur PC cet été.
Ah, PC.
Ouais.
Sur Steam
il est sur Steam depuis le mois d'août, je crois.
Depuis hier.
Et là, on l'a testé parce qu'effectivement, il vient juste de sortir sur Switch.
Sur Switch, ok.
Et je crois que c'est à peu près tout. En fait, c'est les deux plateformes. Alors, peut-être qu'il est aussi sorti sur Mac, je ne sais pas. Mais ouais, c'est les deux plateformes sur lesquelles il est disponible.
C'est vrai que sur Switch pendant les transports.
Et voilà, vous êtes prévenus. En gros, il ne faut pas en attendre beaucoup plus, même si, voilà. Il y a des cadrages, il y a des plans qui sont...
Comme tu dis, c'est pure nostalgie,
vraiment somptueux.
Là, je vais me faire des fonds d'écran, veux-tu, voilà.
Il y a des screens absolument magnifiques à faire, profiter aussi des animations, mais voilà, ça ne va vraiment, vraiment pas plus loin, et c'est quand même assez dommage, il y avait plein de choses à faire. Bon, c'est un jeu qui a été kickstarté aussi, je ne l'ai pas dit au début, mais voilà, ça part d'un petit projet quand même, donc peut-être ne fallait-il pas en attendre beaucoup plus, mais voilà.
Parce qu'ils sont arrivés à bout du truc, ils l'ont fait, et voilà quoi. Tout à fait. Bah écoute, merci beaucoup. Peut-être qu'ils vont faire un 1990X après, je sais pas. Non. Merci beaucoup pour
avec
ce
le
jeu,
mode
donc.
Super 7.
Ah ouais.
Ah bah obligé.
1980X, donc qui est sorti, qui est déjà sorti, hein, oui, forcément, logique. Qui est déjà sorti donc et que vous pouvez retrouver sur le site hein, avec le test de Thomas. Très complet. Et qui a eu la note donc de 5 sur 10 sur Gameblog, n'est-ce pas?
Bof bof, hein.
Pas moyen.
Bah oui,
c'est vraiment comme ça que je suis sorti du jeu.
Merci beaucoup. Et si nous passions tout de suite à l'anniversaire?
Et oui, tout à fait, un anniversaire très spécial aujourd'hui.
Exactement. On
n'a
pas dit le nom tout à l'heure.
Non, on n'a pas dit le nom. Non, moi, c'est le 20 mars.
Le 20 mars.
Le même jour que
le
même jour que Doom, que
Animal Crossing.
Et Animal Crossing. Et alors quoi d'autre? Attends, je ne sais plus. Bon, il y aura d'autres trucs.
Non, tout le reste a été décalé.
Ouais. Bon. Voilà, donc vous pouvez voir la petite boîte là, dans sa fragile petite boîte PlayStation
que je gardais sur mon bureau,
trôner sur ce plateau depuis le début de l'émission. Silent Hill, ah non, c'est son anniversaire aujourd'hui. Il est sorti le 31 janvier 1999 aux États-Unis.
Hein.
Ça fait 20 ans. Vous vous rendez compte? Non, attends.
21. Il vient d'avoir la majorité aux États-Unis.
Voilà, donc il vient de fêter sa majorité. Merde, c'est con, on aurait dû le faire dans le podcast de l'an dernier, celui-là. Là.
Ça se trouve, on l'a fait sur la chiffre.
C'est possible.
Quelle bande de poulets, tu sais. Mais c'est pas grave, c'est pas moi qui l'ai fait l'an dernier. Moi, j'aurais d'autres choses à dire sur ce jeu. Voilà. Donc Silent Hill, hein, magnifique, qui surfe un peu quand il sort à l'époque sur la vague Resident Evil, qui a un peu révolutionné le monde de la PlayStation avec un jeu qui fait peur, qui fout les chocotte dans le noir, voilà, la nuit à jouer tout seul chez soi. Bon, il y en a eu d'autres avant, hein, mais Resident Evil a vraiment enfoncé la porte qui était déjà un peu entrouverte.
Ouais, puis celui-là, dans le genre malsain, il va encore un peu plus
loin.
Et donc voilà, Konami qui a bien fait de la merde avec Silent Hill depuis. Hein.
Oh, tu sais, t'en regardes Dieu.
Voilà. Donc, avec ce premier épisode, non, il frappe très, 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 très fort. Alors, Silent Hill 1, qu'est-ce que c'est? C'est Harry Mason, donc un jeune homme qui est avec sa fille Cheryl dans sa voiture et il passe à proximité de la ville de Silent Hill et malheureusement là l'accident
l'accident bête en pleine
l'accident
dans le brouillard et
Harry se réveille dans sa voiture mais sa fille n'est plus là. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il part sa recherche dans la ville de Silent Hill et il va lui arriver tout un tas de problèmes, hein,
voilà,
de mésaventures avant de pouvoir au final arriver à son but. Enfin, à son but. On ne sait pas quelle fin vous avez eu la première fois que vous l'avez fait. La première fois que vous avez
fait. Très mauvaise.
Voilà. Donc Harry qui va traverser la ville et tous ses dangers afin d'essayer de sauver sa fille qui a un mystérieux passé lié à la ville. Voilà. On n'en dira pas plus sur le scénario.
Oui, parce
que vous m'avez déjà spoilé un film tout à l'heure, donc merci.
C'est voilà.
Ce jeu a une petite particularité. Donc Silent Hill, c'est des jeux indépendants. Ils ont tous des numéros 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 12. 9, 10, 12 Hills PT.
Le 3 est très lié au 1 quand
même. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Le 1, c'est le seul à avoir une suite en fait. C'est-à-dire que Silent Hill 3 est une suite directe de Silent Hill 1 qui se base sur je sais plus trop quelle fin. Mais voilà, donc c'est le seul à être décliné sur deux épisodes. L'histoire d'Harry Mason et de sa fille. Voilà. Donc ce premier jeu, bah, il nous apportait vraiment pas mal de petites choses. Déjà, on était plus sur de l'horreur avec de la peur, du jump scare ou de choses comme ça. Non, là dans Silent Hill, les ennemis, ils sont pas à l'écran, tu les entends déjà, les entends, avec ta radio qui grésille. Donc tu commences déjà à flipper à ce moment-là.
Tout est suggéré, tout ça, donc c'est ça qui fait la peur.
Et puis il arrive en face de toi, mais il marche à deux à l'heure en fait. Il est pas aussi dangereux qu'un Hunter ou que je sais pas quoi de Resident Evil. Non, non, les ennemis sont vraiment pourris. Mais pourquoi est-ce que le jeu te fait flipper? Parce qu'il est malsain, parce que c'est dégueulasse. Parce que ce qu'on te montre, ça te retourne les tripes, quoi. Voilà.
Ah bah, les pyramides aident, les infirmières, ouais, voilà, les bébés ça, qui ont été remplacés par des ours.
Voilà, tout est extrêmement malsain. Voilà, et du coup dans ce jeu c'est pas une peur panique que tu peux ressentir, un jumpscare. Non, c'est vraiment une peur qui est
la
là
peur
qui s'installe.
Est-ce que je pourrais appeler la peur panique
chelou,
quoi, s'il te plaît, juste pour savoir.
Chelou, ça me dirait.
Et donc c'est pas une peur panique, c'est vraiment une peur qui est là, qui s'installe, qui rôde, qui est sous-jacente, qui est vicieuse et qui en fait te fait poser ta manette, pas parce que t'as eu un énième jumpscare, et parce que non, elle te fait poser ta manette parce que t'en peux plus, t'es à bout,
c'est ça,
t'es
tu
à
tiens
bout
plus
de nerfs, tu tiens plus,
ouais,
psychologiquement, c'est trop dur pour toi d'avancer dans le jeu, il faut que tu t'arrêtes, il faut que tu fasses une pause, il faut que t'ailles faire autre chose parce que sinon tu vas vriller, tu vas devenir aussi fou que les personnages du jeu. Voilà. Là-dessus, voilà. Vraiment sur cette peur-là, le jeu a vraiment réussi à pas renouveler la chose, parce que c'était un genre qui existait déjà, mais a vraiment proposé sa vision de la chose, une vision super originale à l'époque, qui en plus tirait parti, alors c'est assez rigolo, par exemple le brouillard dans la ville. Alors le brouillard dans la ville, c'est pas du tout fait exprès en fait au départ. Au départ, ils arrivaient pas à afficher la ville. Du coup, ils ont dit, tiens, on va mettre une petite astuce technique, on va mettre un brouillard, comme ça on n'a pas à afficher tous les décors 3D là, au loin.
Sur des kilomètres,
et voilà. Et donc ça fait partie un peu de la légende de Silent Hill, ce brouillard.
Tout à fait.
Brouillard qui a été transformé en cendre.
En chocolatine.
Dans le film dont nous parlions tout à l'heure, qui est plutôt une très bonne adaptation du jeu vidéo, qui est fidèle au plan.
Le premier, hein. Ouais, pas le deuxième. Hein.
Non.
Parce que le deuxième, c'est
Silent
pire
Hill
qu'une
2,
merde.
Le film, c'est une daube.
Ils en ont fait deux,
ouais. Ouais. Silent Hill 2, le film,
j'ai
Silent Hill 2, est basé
donc
sur le 3. C'est-à-dire, je vous disais tout à l'heure que Silent Hill et 1 et 3 sont les seuls deux jeux à se suivre un peu. Bah, ils ont fait Silent Hill 3 en film, en fait, pour Silent Hill 2. Mais c'est nul, il faut pas y aller. Faut pas le voir.
Ça marche.
Bah,
merci pour
cette heure de votre vie. Attends, on n'a pas fini.
Non, pour l'anniversaire, c'est pas un thème.
Je crois que lui, il avait fini, justement.
C'est pas un thème.
D'abord, on peut souligner pour finir les musiques aussi d'Akira Yamaoka, qui est devenu le grand patron de Silent Hill pendant un moment avant de partir et qui était.
Avant que Kojima fasse Pity.
Oui,
ouais, Pity, voilà, donc on va terminer là-dessus. Tiens, Pity, magnifique démo.
Fast Tippy.
Moi, je l'ai mise dans mon top 10 de la décennie écoulée, Pity. Voilà, la démo. Pourtant, ce n'est qu'une simple démo.
Il est cheaté, ton top 10.
Ouais, je sais, il y a 16 jeux dedans.
Non, mais c'est bien d'en parler de Silent Hill aujourd'hui, parce que Konami en reparle aussi. Donc,
c'est vrai que.
On en reparle et Konami dit
peut-être. Qu'est-ce qu'ils vont faire, un nouveau pachinko?
Bah, deux. Normalement, il y aurait peut-être deux projets en cours.
Un jeu de foot.
Et Konami a dit ouais, c'est vrai, voilà, un jeu de foot, ça lentille.
Ah, n'empêche que.
Avec les bébés, t'es.
Avec les zombies, les bébés.
Non, le bébé, c'est la balle.
Bah oui, c'est ce que je disais.
Il y avait eu un petit jeu d'arcade à un moment, tiens, dans les petits jeux assez bizarres sur Silent Hill. Ouais, le jeu d'arcade qui était pas trop mal. J'ai dû mettre une dizaine de pièces dedans. Bon, c'était très dur et injuste comme dans n'importe quel jeu d'arcade, quoi. Mais c'était assez stylé de retrouver cet univers-là sur un type de jeu dont on n'avait pas l'habitude à l'époque. Voilà.
Exact, bah écoute, merci beaucoup pour cet anniv. Donc Silent Hill, 21 ans, le 31 janvier.
Ça fait beaucoup.
Déjà,
quand même.
On prend ça dans la face. Et tout de suite, eh bien, c'est l'heure du hors-jeu, messieurs. Avec un truc, je sais pas, je vais découvrir en même temps que vous. Donc,
ah bon ?
Plume.
Oui ? Ah, donc c'est moi qui fais le hors-jeu ?
Ouais, ouais.
Ah, je savais pas. Je plaisante, détendez-vous. Ça fait au moins 3 semaines que je tanne la rédac avec avec cette série qui est apparue sur Netflix il y a pas très longtemps et dont on n'entend pas suffisamment parler à mon goût.
Exact.
Alors ça s'appelle Giri Haji, Shame Duty. Ça commence comme un polar, on va dire classique, qui nous parle d'un flic tokyoïte dont dont le frère est supposé mort depuis un an, et un yakuza va venir toquer à sa porte et lui dire non, ton frère il est pas mort, tu vas aller me le chercher, il est à Londres, parce que là il est en train de foutre un bordel pas possible, ça va finir en guerre des gangs, donc c'est pas bon, file. Donc ce policier, parce que oui il est policier, eh bien s'en va à Londres, et là ça va commencer à être un petit peu une espèce de chute de domino de plein d'événements différents qui vont se mettre en route, et finalement de ce qu'on imaginait être un polar classique, ça va devenir une espèce d'ovni un petit peu fou, artistique aussi. C'est une série qui s'autorise des choses qu'on n'imaginait pas forcément pour une série de la BBC, parce que originellement ça a été diffusé à l'automne 2019 sur BBC2, et c'est pas vraiment quelque chose à laquelle on peut s'attendre de la part de cette chaîne de télévision, et ça mélange vraiment des plans très colorés, très différents, très arty comme on dit, avec un petit peu d'animation aussi par moment, et d'autres séquences mais je me souviens pas avoir vu ça, à part peut-être dans Mister Robot, où on a une vue aérienne aussi très éloignée, qui aide à prendre conscience artistiquement de ce qui se passe dans la tête des personnages à ce moment-là. Moi, le truc qui m'avait aiguillé, c'est que c'était par les producteurs de Tchernobyl. Donc forcément Tchernobyl, qui est une des meilleures séries,
la grande comédie,
ouais voilà, une des grandes séries de l'année 2019, je me disais bon bah voilà, ça va juste être sympa, et finalement ça va beaucoup plus loin que ça. Je vais passer par les acteurs, parce que c'est vraiment du côté des personnages que tout va se faire. Les acteurs sont absolument fabuleux. Alors je vais vous expliquer vite fait, parce que ça se partage entre Tokyo et Londres, donc il y aura une partie qui sera 100% dialogue en japonais, et l'autre qui sera en anglais, avec parfois un petit peu de japonais quand les personnages japonais qui sont à Londres vont s'interpeller. Et donc il n'y a pas de surjeu japonais, c'est une des questions qu'on m'a souvent posée. C'est-à-dire que les japonais ont tendance, que ce soit dans les films, les pièces de théâtre ou les séries japonaises, à effectivement à surjouer, à avoir des intonations peut-être un petit peu trop appuyées. Là non, tout est naturel. Vraiment, la façon dont chacun des acteurs japonais est impliqué à l'intérieur de cette série, il y a rien qui fait tache.
Ça a été
finalement
dirigé par des occidentaux du coup.
Absolument.
Ok.
Ouais. C'est absolument. Joe. Alors attends.
Biden.
Non. Ça y est. Il faut que je retrouve son nom. Non. Il a un nom de footballeur. Joe Barton. Voilà.
Joey Barton.
Bah c'est pas Joey Barton. Consumé, c'est Joe Barton. Donc un presque homonyme qui est à l'origine de cette série, avec des réalisateurs qui sont pas forcément très très connus chez nous. Et donc tout le casting est absolument fabuleux. L'actrice que nous on connaît un tout petit peu, mais il y a aussi Justin Long d'ailleurs, qui était le petit gars des pubs Apple dans les années 2000, qui a un rôle on va dire très succinct dans la série, mais nous on connaît plus particulièrement Kelly MacDonald, qui joue une flic qui a été un peu placardisée malheureusement. Tous les autres acteurs, on a pas forcément entendu parler d'eux chez nous. Elle, on la connaît pour Boardwalk Empire notamment, et aussi parce qu'elle jouait la petite amie d'Ewan McGregor dans Trainspotting. Et donc on se retrouve avec Takehiro Hira, qui joue le héros, donc Kenzo Mori, qui est fabuleux, qui est d'une grande pudeur, et qui a vraiment une façon de communiquer les choses qui ne manque pas aussi d'humour par moment. Ça, je vais pas en dire trop, mais ceux qui vraiment crèvent l'écran, il y a Will Sharp qui va jouer Rodney, qui est un prostitué de mère japonaise si je me rappelle, qui est un personnage à la fois pathétique et extrêmement drôle, et auquel on est obligé de s'attacher, et la petite préférée je pense de même, j'imagine, Poofy aussi. J'imagine hein. Il y a une actrice japonaise qui s'appelle Aoi Okuyama, qui joue la fille du héros, et qui elle, mais
qui va défoncer tout le monde,
qui est absolument fabuleuse. Elle vole la vedette absolument à tout le monde.
Poofy, tu confirmes?
Poofy confirme, voilà. Donc Poofy confirme. On est obligé de fondre à chaque fois qu'on la voit à l'écran.
C'est vrai.
Et donc le développement de chacun de ces personnages qui sont vraiment pas figés, hein. Et on parle aussi de, je parle aussi de la mère et de la femme du héros qui ont des caractères bien trempés et qui ont leur petite histoire au Japon qui est assez fabuleuse. Il y a un développement des personnages, une caractérisation qui est géniale, des dialogues fabuleux, mais vraiment, je vous parlais d'humour tout à l'heure, il y a des trucs qui restent en tête dès le premier épisode, notamment par rapport à un flic anglais. Qui aura un rôle dont j'en dis pas plus, mais qu'un petit rôle, et donc il y a beaucoup de rire, pas mal de déchirements, pas mal de moments où on va se dire que bah, c'est assez injuste ce qui se passe. Il y a quelques surprises quand même, parce que même si on reste dans quelque chose d'assez encadré et on va dire, je vais pas dire que c'est du déjà vu, mais il y a des choses auxquelles on peut s'attendre, il y en a d'autres pas du tout. Et c'est très très bien mis en scène à chaque fois. Il y a ce petit pétage de plomb au début de l'épisode 5 par exemple, ou cette incroyable séquence du dernier épisode à laquelle on ne s'attend absolument pas, et qui permet d'illustrer un moment vraiment très tendu de façon très douce. C'est pour moi vraiment si je l'avais vu en 2019, ça aurait été, je pense, ma série de 2019. Mais là déjà, c'est un sacré foutu coup de cœur pour Guiri Hadji, que je ne peux m'empêcher de conseiller à tout le monde. Surtout qu'en plus, vraiment, Netflix, je comprends pas, ils mettent en avant, ils te foutent des pubs dans les métros partout pour des trucs qu'on a vus et revus. Et pour ça, j'ai vu quasiment aucune communication, alors que vraiment.
Et tu l'as trouvé quand tu l'as trouvé comment?
Bah, je te dis, sur Netflix, tu peux.
Elle était dans la rubrique les trucs que vous voulez pas voir.
Non, tu sais, à découvrir. Je vois le nom. Je vois parler. Je regarde. Tu sais, quand t'es sur Netflix, t'as souvent la bande-annonce qui se déclenche quand t'es dessus, et toute seule. Et là, je vois écrit par le producteur de Tchernobyl.
Quand il y a pas de voix dans les bandes-annonces.
Et j'ai vu la tête de Kelly MacDonald, qui est une super actrice. Et donc là, je me suis dit bon. Ça va peut-être être intéressant, un petit polar sympa. Bah, c'est bien plus que ça, et du coup, je vous le conseille 100 000 fois.
Ok.
Combien d'épisodes du coup ?
8.
Ok.
8, cool. Environ une heure. Et vraiment, vous n'allez pas perdre votre temps.
Génial.
Parfait. Bah écoute, merci.
Comme
beaucoup.
Un petit. Mince, comment elle s'appelle ? Trou Détective ?
Non.
8 épisodes, une heure.
Ouais, mais on n'est pas au niveau. C'est pas un trou détective. C'est pas du tout le but. C'est pas de nous faire vriller la tête.
Ouais.
C'est plus de nous divertir et d'osciller entre le mélo et les drames de famille sur fond de guerre de gang.
Ok. Bravo. Parfait. Ben merci beaucoup pour ce Guiri Hadji.
Guiri
Hadji.
Ouais, parce
pourquoi
que
il y a marqué duty shame,
parce que c'est ce que ça veut dire, si Thomas me confirme.
D'accord.
Que Guiri veut dire duty et Hadji veut dire shame, donc entre devoir et honte, c'est un peu
tradition modernité.
Les deux thèmes, voilà. Les deux thèmes qui sont centraux à la série par rapport à son personnage principal.
D'accord. Ça marche. Bah écoute, parfait. Merci beaucoup pour ce hors-jeu. Voilà qui clôt, n'est-ce pas, ce podcast 520. Merci Pouffer la technique. Même si t'as failli t'endormir. Thomas qui lève le bras, je sais pas pourquoi.
Bah pour montrer Poufi, pour lui rendre hommage.
Le podcast est fini.
Ouais.
Merci Genuine.
De rien.
On se
merci
retrouve
à
bientôt en enfer.
Oh non, j'espère
merci
pas. Plus.
Et merci Kobe, bien sûr, ouais. Qui nous a régalé pendant tant
d'années. Paix à son âme.
Exactement. Et puis nous, bah, écoutez, on se dit au revoir et à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas que les Gunblock Awards arrivent bientôt quand même. Hein. Ne vous inquiétez pas.
Avec des surprises.
On a retenu vos votes
surprise.
Et tout ça. Les Game Boy Awards arrivent et
je m'insurge déjà contre les résultats à l'avance.
Ouais, mais nous on va te tuer avant.
Ouais, mais tu sais comme on va le faire au Moulin Rouge, mais au vrai Moulin Rouge cette fois, avec les danseuses de cancan et tout. Là tout de suite ça va.
Attends, je serai là. Hein. Faut pas décoller là, vous me prévenez. Hein.
D'ailleurs, c'est toi qui paye le Moulin Rouge.
Ah, what?
Ça marche. Allez, à bientôt tous et jouez bien, continuez de nous suivre et puis on se dit à la semaine prochaine du coup. Salut,
bisous,
ciao.
Bisous, bisous, ciao. Bisous, bisous, bisous.